Bonjour! Tiens, rapproche-toi.
Ah oui, je me rapproche.
Bonjour! Bonjour!
Bonjour.
Bonjour à
Bonjour,
toutes et à tous, bonjour tout le monde! Comment ça va? Incroyable! Bonjour, je suis avec Adèle, OMG! Alors attends, je vais augmenter un petit peu le gain du mic pour qu'on
bonjour.
nous entende un peu plus mieux. Voilà,
C'est
normalement ça
bon?
devrait être mieux. OMG, il y a Adèle! Mais oui, il y a Adèle! C'est incroyable! Bonjour tout le monde! Comment ça va, Adèle?
Ça va super bien.
Bah
Bah
écoute,
ça
ça
va,
va.
attends,
Attends!
je découvre la salle de stream de gens quoi. C'est
Bienvenue
un
dans le
truc, je pense que vous
stream.
êtes nombreux à vouloir faire ça. Moi j'ai ce grand privilège, j'ai presque envie de filmer et tout.
Est-ce que tu peux raconter la vraie raison de ta présence ici? Oh, je crois qu'on peut leur dire.
C'est vrai, la vérité, c'est parce qu'on a énormément travaillé sur l'actualité de la semaine.
Absolument, on a
On voulait
préparé cette
absolument
émission.
partager des informations de
Des
la plus
analyses,
haute
des analyses.
importance, ouais. Genre les premiers ministres britanniques, les trucs comme ça. Enfin,
Absolument, absolument. On a
ouais.
révisé là la balance commerciale de l'Afghanistan et on a beaucoup de choses à vous dire. Tu peux nous dire si c'est un fond vert du coup, Adèle? Ah, tu peux leur dire si c'est un vrai ou un faux décor.
Attends, bah, surtout je vais vous montrer en fait.
C'est un vrai décor,
C'est
OMG!
un vrai décor et c'est incroyable. On peut passer des heures à observer tout ce qu'il y a.
Oui, il y a
Je
beaucoup de
pense que
trucs.
parfois, d'ailleurs, ils changent des trucs de place pour vérifier si votre
Si vous
attention.
suivez. Alors, l'occurrence, Zerator, tu dois connaître de nom.
Ouais.
Zerator, il a un très beau décor dans lequel il change systématiquement un truc, où il rajoute, où il enlève, etc. à chacun de ses streams. Et il y a un compte Twitter qui s'appelle ZRT Décor qui tient à jour les changements. Et c'est un jeu entre Zerator et eux.
Excuse-moi, mais pourquoi il n'y a pas un Jean Massier décor? Un JM
Il y a un out
décor?
of context Jean Massier qui n'est pas beaucoup mis à jour, mais voilà. Donc voilà. Non, Adèle est venue
Si
aujourd'hui.
ça se trouve, le mur est vert et fait une incrustation blanche. Oui, tout à fait.
Exactement.
C'est ce niveau. Vas-y.
Exactement. D'ailleurs, l'ancien propriétaire avait coloré ce mur en bleu, je crois en bleu fluo, et il a remis un coup de peinture avant que j'arrive. Et quand je suis arrivé, j'ai vu des petites traces de bleu. Je me suis dit, mais ça devait être mieux en bleu.
Bah,
Fallait le laisser.
tu peux recommencer.
ZRT Décor a abandonné. Ah, ils ont arrêté ZRT Décor. Bah, ça fait des années en même temps qu'il existe ce truc. Donc voilà, non, Adèle est venue parce que, comment dire, j'ai des compétences de décoration égales à zéro. Et on a pris un café récemment et Adèle m'a dit, il faut que je vienne chez toi, il faut qu'on discute. Et du coup, là, on a passé 2 heures à checker, parce que j'ai emménagé cet été, j'ai encore rien décoré, il y a encore des cartons et tout. Donc, il faut que j'ameuble un peu chez moi, que ça devienne un peu plus sympa. Et donc, voilà.
Et voilà, et donc je n'ai aucun master en décoration, mais néanmoins,
Mais tu as du goût.
Jean m'a fait confiance.
Oui. Et tu as beaucoup bon goût. Donc voilà, donc ça
Complètement. Je
c'est.
suis la Valérie d'Amido de Jean, hein. Voilà,
Exactement.
tout
Merci
simplement.
Valoche,
On espère
évidemment.
un petit peu avec des idées un peu différentes, peut-être, enfin moins, enfin plus,
Enfin voilà quoi.
enfin.
Vous comprenez? Donc du coup là t'as le chat que tu connais. Juste en dessous en rouge c'est le nombre de viewers.
Ouais.
Et bah, le reste c'est rien, c'est que des trucs techniques. Et on peut montrer des trucs sur l'écran si on veut aller sur les internets montrer
Super.
des trucs. Voilà. Voilà quoi. Est-ce que ça va vous, les copains?
On va maroufler, le fond vert a été supprimé. Je trouve ça très très drôle, la modération du chat.
Alors, ils sont extrêmement
Bon,
drôles. Et
oui,
ils
ils
sont
sont très
extrêmement
très
drôles.
drôles.
Les gens de la commu
Vraiment
sont
les
vraiment les
deux.
plus marrants. Quel homme proche du peuple, il prend le temps de prendre des cafés avec ses chroniqueurs. Vous savez, moi, le petit personnel, c'est important.
Ouais. Enfin, ils les exploitent hein, parce qu'ils leur demandent quand même de
De bosser,
bosser
ouais, un jeudi
gratos,
soir, on
tu
avait autre chose à foutre en général. J'en ai marre d'être malade, mais ça va. Ah merde, courage les gens qui sont malades. Courage, mais en plus, il fait chaud, qu'est-ce qui t'arrive?
Peut-être le changement de saison, justement.
T'as
Enfin,
raté
le pas de
ton
saison.
tempo. N'hésite pas à te rapprocher parce que là, du coup, t'es coupé en
Covid.
deux
Ah ouais,
par le
pardon, attends. Ouais,
chat.
c'est vrai, je suis dans le chat. Pardon. Ouais, d'ailleurs, il y a des gens qui ont dit qu'ils m'avaient pas reconnu. Je pense que j'aurais pu me maquiller, en fait. C'est gênant.
N'y a pas de maquillage sur l'intérieur, j'ai la peau éclatée, moi je suis tout rouge.
Ouais, non, j'ai pas payé mon café, j'ai apporté mon café, évidemment.
Bien
Je veux dire,
sûr,
c'est
pas
pas.
déconner non plus,
Attends.
ça va.
Mais attends, il s'est passé un truc fou. Il m'a
Quoi?
prêté une tasse.
Oui, alors j'aurais pu te filer la tasse Baxit. C'est vrai que j'ai manqué de. Parce que moi, donc j'ai toujours la taxe publique Sénat. Jean,
Ça,
évidemment.
c'est chic.
Ça, c'est. Ouais, alors, sauf qu'on bosse plus ensemble avec Baby Sénat, mais c'est pas grave, je les embrasse quand même. Donc voilà. Je suis nouveau, c'est qui Adèle pour toi?
Mais qui est
C'est ma sœur. D'ailleurs, tu viens dîner chez maman
Adèle?
dimanche?
Même on part en Bretagne ce week-end.
Ah
Tu sais, on s'occupe de ta nièce.
oui.
Enfin, notre nièce.
Notre nièce. Non, c'est qui Adèle pour moi? Parce que du coup, il y a des nouveaux aussi qui connaissent pas Adèle. Adèle, c'est qui? Adèle est une artiste contemporaine finalement. Non, artiste était Adèle, pardon, était chroniqueuse dans mon émission Backseat au cours de la première saison. Elle le sera sans doute dans le cas d'hypothétique deuxième saison, je ne sais pas. Voilà. Et Adèle a travaillé en politique comme moi par le passé. Et...
mais vachement longtemps avant.
Quelque temps. Pour Ramsès II. Et Adèle aujourd'hui fait du stand-up.
Oui, entre autres.
Je raconte du coup.
Non, mais effectivement, j'ai bossé en politique assez longtemps, quand même 8 ans. Mine de rien.
Ouais, plus que
et
moi.
J'ai bossé pour des parlementaires, donc des sénateurs, un sénateur et des ministres. Et notamment un ministre ou n'est pas hyper connu qui s'appelait Alain Juppé à l'époque.
Je connais pas.
Un mec, ouais, pas trop dans le pipe, qui est pourtant ministre des Affaires étrangères. Et voilà, Ramsès II, Alain Juppé, même combat, je trouve ça sublime. Tout à fait, entre autres. Et ensuite, après, je suis partie vivre à Los Angeles, où je m'occupais de faire la promotion de la culture française à l'étranger. Et ensuite, quand je suis rentrée, j'ai décidé de me mettre à mon compte et d'aider les gens à mieux communiquer. Donc, je suis devenue consultante en communication pour les entreprises, les organisations, mais aussi pour les gens.
Bah, tu fais du conseil, du coup.
Tout à fait.
Parce que je passais du temps à leur expliquer c'est quoi une... Tu sais, au moment où il y a eu McKinsey, etc.
Ouais.
Il y a plein de gens qui disaient, mais c'est quoi le conseil qu'ils ne connaissaient pas. Et c'est vrai que c'est étrange pour beaucoup de gens.
Alors, bah, moi, j'ai une définition assez simple de ma façon de faire le conseil, du conseil. Je fais le conseil.
Je fais le conseil.
Je fais le conseil.
Je suis le conseil.
Je suis... c'est qu'en fait, moi, je donne des conseils dans des domaines que je ne connais pas, mais je les facture extrêmement cher.
Très voilà. Important.
Et c'est une méthode américaine, hein. Ça marche très, très bien.
Fake it, do your make it, c'est vraiment...
Et non, en réalité, c'est vrai que ben, parfois les entreprises ou les organisations ou les organismes publics ont besoin d'un regard extérieur de gens spécialistes dans leur domaine ou parfois pas forcément spécialistes, mais justement qui ont une connaissance suffisamment large d'un écosystème pour les aider avec des idées nouvelles que eux n'ont pas forcément. Alors après, moi, je trouve ça quand même compliqué, effectivement, de faire autant appel à des boîtes de conseil quand on est l'État français et qu'on embauche des gens dont c'est le métier, mais parfois c'est pas inutile, parfois c'est juste on n'a pas la compétence ou en tout cas l'expertise aussi pointue, et puis parfois c'est on n'a pas la vision large.
Ouais. Et du coup, je vous expliquais que McKinsey, c'est un géant du conseil à l'échelle planétaire, c'est une multinationale du conseil, mais l'écrasante majorité des gens que je connais qui font du conseil sont comme Adèle à leur compte ou dans des toutes petites boîtes de conseil où ils sont 2-3. Et font du conseil pour des entreprises à taille humaine, mais aussi parfois il y a des multinationales qui appellent des consultants solo pour venir les aider dans un point précis. On réfléchit à une transformation, machin. Est-ce que vous pouvez nous rendre un rapport, nous faire du conseil, comme on dit. Donc voilà.
Voilà, oui, et j'ai tout appris à McKinsey, bien entendu. Mais ce qui est très très bizarre, c'est que je n'ai pas les mêmes revenus que McKinsey.
Ils ont un peu surfacturé tes prestats.
Je ne sais pas comment. Enfin, en tout cas, ils ont bien retenu mon conseil, mais.
Surfacturé vos consultants.
Voilà.
Donc ouais exactement. Et moi, alors moi j'ai jamais fait de conseil, je crois pas, non, mais tu le disais, c'est pas forcément des gens qui s'y connaissent dans le domaine en question. J'ai un exemple comme ça récent, le ministère des armées a créé un programme qui s'appelle Red Team et qui est composé de, c'est l'ancienne boîte de prod avec qui je faisais Backseat qui a bossé sur ce projet, c'est pour ça que j'en ai entendu parler. En fait, le ministère des armées expliquait nous, on est très bon pour les militaires, ils sont très bons pour obéir aux ordres et appliquer des processus, etc. Mais ils n'ont pas beaucoup d'imagination. Et du coup, le principe de la Red Team, c'est que le ministère des Armées paye des auteurs de science-fiction pour imaginer des scénarios de conflit, et ça challenge les militaires en disant et là, vous faites quoi ? Et du coup, bah, c'est des gens qui font des programmes, etc., et qui réfléchissent, et qui font plusieurs fois par an des espèces de colloques avec des militaires en leur présentant des scénars qu'ils ont imaginés. Plus ou moins réaliste, plus ou moins futuriste, peu importe. Mais l'imagination, du coup, des auteurs de science-fiction est mise à disposition des militaires qui, du coup, doivent réagir en mode « Et là, s'ils font ça, vous faites quoi ?» Si la guerre, elle devient un truc qu'on n'a jamais imaginé, c'est le principe des militaires, ils ont toujours une guerre de retard, comme vous le savez, et bien, du coup, là, ils sont challengés par des gens qui... Et du coup, les militaires doivent réfléchir comment on adapte les choses, est-ce qu'on est prêt à faire face à tel type de menace et tout. Donc, voilà.
Mais c'est drôle quand on dit, tu sais, la réalité dépasse la fiction.
Ouais.
Bah là, c'est marrant que la fiction aide la réalité à se préparer, mais ça arrive souvent que la réalité ensuite dépasse la fiction. Je pense à ça d'ailleurs parce que Édouard Philippe et Gilles Boyer ont écrit un livre qui s'appelle Dans l'ombre. Enfin, ils en ont écrit plein ensemble, mais ils ont écrit plusieurs polars politiques et notamment un qui s'appelle Dans l'ombre. Et j'en parle parce que récemment, on a appris qu'ils allaient faire une série télé
Ah mais oui, c'est vrai, ils bossent dessus, oui.
Exactement.
En adaptation de ce truc-là.
Exactement, ah, c'est l'adaptation bien. De leur bouquin. Et c'est assez intéressant parce que, enfin, je ne vous divulgâche pas ce qui se passe, parce que je pense que c'est rigolo si vous avez envie de le lire, ou de voir la série quand elle sortira, dans longtemps, parce que je crois qu'ils sont, enfin, même, c'est le balbutiement de début de la prod. Mais c'est intéressant parce que la réalité, ensuite, a dépassé la fiction. Il s'est passé des trucs dans le monde qui, quand ils, eux, l'imaginaient, c'était genre, mais des trucs dingos. Et puis en fait, ça paraît plus du tout si fou quand tu le lis aujourd'hui le livre, parce que depuis, il y a eu plein d'événements politiques qui ont vraiment été complètement dingues, surtout ces quelques dernières années.
Bah, c'est dans le documentaire, le fameux documentaire Édouard, mon pote de droite, que tu vois une scène hyper intéressante où Édouard Philippe discute avec son pote réalisateur qui a sa caméra dans le bureau d'Édouard Philippe. Et ils discutent comme ça ensemble de la réalité de l'exercice du pouvoir. Et il y a un moment où Édouard Philippe dit à son pote, mais je veux dire, là pour l'instant, je veux dire, les choses roulent et tout, on a des process, on a des ministères et tout, mais t'imagines si demain il y a, je sais pas moi, une guerre, si y a un virus planétaire qui arrête toute l'économie. Et il lance cette idée-là en disant c'est fictif, mais c'est le genre de truc qui peut arriver, sur lequel on n'a pas la main, il va falloir qu'on réagisse très vite. Et un an et demi plus tard, t'avais la réalité de... Enfin, c'était extrêmement intéressant cette séquence de la revoir rétrospectivement, tu dis putain... Il disait lui-même à haute voix que bah, c'est des choses qui peuvent arriver et qu'est-ce qu'on fera le jour J
Oui, est-ce qu'on lui reprochera sa façon d'agir?
Oui, c'est ça qu'il disait d'ailleurs.
C'était vraiment, voilà, qu'est-ce qu'on
tout le monde se tournera vers moi en disant...
oui. Et c'est vrai, enfin, ils ont tous... Je pense,
mais d'ailleurs, toi, t'as bossé en politique et t'es comme moi. Tu peux dire de la même manière que moi que la politique, c'est de l'imprévu. C'est des trucs que jamais tu t'es préparé à ça. Je racontais hier comme anecdote, moi je bossais au ministère de la Santé. Un jour, on a un avion de l'armée qui s'est écrasé sur un EHPAD.
Voilà. Oui, ça,
là,
c'est,
tu dois gérer ça, c'est 48 heures, tu t'es jamais préparé à ça. C'est-à-dire, comment tu gères en termes de communication, en termes de gestion de crise, de machin?
Non, puis en plus, là, tu as deux ministères concernés, les armées et le ministère de la Santé. Donc là, tu vas devoir faire. Alors, j'imagine que c'est des réunions d'urgence, mais sinon, quand les ministères bossent ensemble, tu es toujours obligé de faire ce qu'on appelle des RIM, réunions interministérielles.
On embrasse les gens qui font des RIM à l'heure qu'il est.
Ouais, franchement, on les soutient. C'est des réunions interminables où tu passes point par point avec tous les ministères qui disent leur centre d'intérêt, enfin, ce qui est prioritaire pour eux, et c'est pas toujours compatible. Ensemble.
T'imagines la réunion interministérielle entre le ministère de la Jeunesse et le ministère des Armées sur le SNU?
Ouais, non, mais
ça devait être génial. Tu sais que le ministère de la Jeunesse qui dit, alors nous, on pensait à 50 000 jeunes qu'on mettrait dans des casernes, on leur ferait faire des pompes, et les militaires en face, ils sont, mais alors, on n'a pas les moyens, pas la logistique, on n'a pas le savoir-faire, on n'a surtout pas envie.
Mais c'est ça pour toutes
les... Vraiment, la rime, elle devait être magique, et c'est ça pour tout. Mais vraiment, l'interministérialité, aujourd'hui, ça a pris une place absolument phénoménale, justement pour décloisonner l'État... qui a beaucoup de problèmes. D'ailleurs, la réforme de la haute fonction publique de Macron s'inscrit dans cette logique d'interministérialité. Et quotidiennement, mais tu gères des trucs avec les autres ministères, tout est dans le jardin du voisin. Et c'est un cauchemar, quoi.
Le chat est créatif, hein. Les réunions interminables, c'est...
RIM, vous êtes bon.
En plus, on peut lire à plein de... Voilà, là, c'est interminable, interminable. Enfin, là, tellement de layers.
Il y a quelqu'un qui demande la théorie de la goutte d'eau d'Edouard Philippe, tu l'as entendu ? Cette fameuse conférence qu'a donnée Édouard Philippe il y a quelques années devant des étudiants en école de commerce, où il explique que on ne connaît pas la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. On ne sait pas laquelle ce sera.
Oui, bien
et
sûr.
Il explique que, par exemple, quand j'arrive au gouvernement et qu'on fait les ordonnances travail, moi je m'attends à ce que ce soit une rentrée rouge, un enfer, etc. Et en fait, ça passe très bien. Effectivement, c'était surprenant, mais les ordonnances travail qui ont vraiment révolutionné notre droit du travail à un point même pas imaginable.
Ils sont passés crème.
Même dans les pires, dans les meilleurs rêves humides d'une partie de la droite, on n'imaginait pas un truc aussi brutal. Et ça passe. Ils parlent de la réforme de la SNCF, suppression du statut cheminot, ça passe. Et là, taxe carbone, on accélère le calendrier, paf, gilet jaune. Et ça, ça a été la goutte d'eau, mais on ne pouvait pas le savoir à l'avance. Et donc, ils parlent de ça en disant, et là, ça passe plus. Et donc, il explique que parfois, tu peux être très surpris par des trucs. Nous, ça avait été pareil quand on avait fait la réforme de la santé avec Marisol Touraine, la loi santé. On avait tout un pan prévention, on avait beaucoup de choses. On mettait les médecins généralistes au cœur du système de santé, etc. Premier recours, machin. Et en fait, c'était les professions libérales qui avaient manifesté dans la rue pour pas qu'on les mette au centre. Enfin, c'était hyper intéressant. Et on s'est dit, mais on s'attendait pas à une mobilisation de ces gens-là, en fait. C'était surprise.
Donc, non, voilà. C'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, si vous êtes avide de documentaires et trucs comme ça,
ouais.
Je sais pas si on le retrouve facilement, mais il y avait un documentaire qui est sorti il y a quelques années qui s'appelait L'Enfer de Matignon.
Ah oui.
Et franchement, c'est exceptionnel parce que c'était tous les premiers ministres qui témoignent et on s'en fiche, enfin, quel que soit le bord et quelles que soient les séquences qu'ils ont vécues, ils ont tous vécu l'enfer de Matignon et ils le racontent. Alors, c'est des enfers différents, mais c'était vraiment.
Et le documentaire est hyper bien découpé parce que ça commence par la nomination. Donc c'est vraiment que c'est une succession de témoignages qu'ils ont enregistrés à des moments différents, mais de premiers ministres dans un fauteuil, en fond noir, un peu à la scène Curvelo, quoi, et qui racontent leurs souvenirs. Et ça commence par la nomination, comment vous l'avez appris, comment vous l'avez pris, qu'est-ce qui se passe dans les premières 24 heures et tout. Et tu as des premiers ministres qui disent, on s'y attend pas, on se prend une balle d'un seul coup, on se retrouve du jour au lendemain propulsé dans un truc à 2000 km/h, on essaie d'avoir une discussion avec ses enfants et son épouse avant pour essayer de les préparer, mais en fait nous-mêmes on n'est pas préparés, on est mort de trouille. Donc ça commence par ça. Ensuite il y a les premiers jours, les premières semaines, ensuite c'est et ça finit jusqu'au départ. Ça finit jusqu'au départ de comment est-ce qu'on quitte Matignon. Ils disent tous, vous vous rendez pas compte le choc dépressif que ça fait de quitter Matignon du jour au lendemain. T'as plus une armée de gens qui tournent autour de toi 24/24. T'as plus tes deux téléphones qui sonnent tout le temps. T'es plus le centre de l'attention. Alors ça fait du bien, mais aussi tu passes de 200 km/h à une vie normale et tu sais plus faire. Tu te retrouves à prendre ton petit déj chez toi, en disant mais attends, j'ai une demi-heure d'avance là. Je mange tes tartines.
Non mais ça arrive en plus dans plein de... C'est souvent ça pour les ministres en général, mais Matignon particulièrement, parce que c'est marrant, il y a une question qui était, est-ce que c'est pire Matignon ou l'Élysée ? Bon, à nouveau, j'en sais rien, il faudrait demander à ceux qui occupent les fonctions et ceux qui ont eu la chance de faire les deux.
Je pense que c'est Matignon.
On n'a pas eu tant que ça, mais en fait, Matignon, je pense que c'est vraiment compliqué parce que t'es entre le marteau et l'enclume précisément, ouais. Alors que l'Élysée, t'es le marteau.
Donc, ouais, t'es le marteau, oui. Donc, oui. L'Élysée pressurise.
Ça doit pas être fastoche, mais tu sais, t'es pas dépendant de quelqu'un d'autre, alors que Matignon, t'es dépendant de tout, t'es dépendant de ça se passe bien ou pas avec ton président, que tu sois en période de cohabitation ou non d'ailleurs. Mais,
oui, oui.
Tu sais pas ce qui est, enfin, tu sais pas quel autre ministre va essayer de te faire un sale plan, veut ta place, ne respecte pas tes arbitrages. Dans les fameuses réunions interministérielles, l'objectif c'est d'aboutir à un arbitrage
pour prendre une
décision. Et donc toi, t'arrives. Moi j'ai travaillé au ministère des Relations avec le Parlement avant Alain Juppé, oh. Avec des ministres très connus également. Non, alors là on est vraiment sur.
C'est qui ?
C'était Roger Carucci.
Ah Carucci, bah oui bien sûr.
Roger Carucci qui est maintenant sénateur et Henri Drincourt. Qui était sénateur et qui avait été président du groupe des Républicains indépendants du Sénat, il y a longtemps. Et le job du ministère des Relations avec le Parlement, je pense que tu l'expliques assez régulièrement, mais c'est effectivement de suivre les arbitrages de Matignon au Parlement, notamment, entre autres, hein, sur les textes, c'est quand même d'être sûr, voilà, ou de les vendre à la majorité, ou de voir comment est-ce que tu peux ne pas te prendre l'opposition trop frontalement, essayer de détecter le moment où on va te faire un coup du rideau, enfin, etc. Et le pire truc qui puisse t'arriver, enfin nous, moi ça m'est arrivé plein de fois, tu reviens avec un arbitrage après ces rimes interminables qui durent 4 heures, t'as les textes, vous voyez comment ça se passe avec les amendements, les sous-amendements, c'est des heures de débat, toi, enfin tu... Et puis là, le gouvernement, au banc, décide de donner un avis différent de celui qui avait été rendu avec l'arbitrage de Matignon.
Avis favorable à l'amendement.
Et toi, t'es là, genre... Bah,
c'est pas ce qu'on a dit, en fait.
Et toi, tu peux rien dire, parce que celui qui parle pour le gouvernement, c'est le ministre. Mais toi, tu es là... parce que tu dépends de Matignon, et donc il se passe un petit problème qui n'était pas celui qui était prévu. Et c'est assez...
Alors on a utilisé beaucoup de gros mots là dans nos explications, ouais, alors je vais vous répondre du coup. Qu'est-ce qu'on appelle Matignon ? Matignon, c'est le nom de l'hôtel de Matignon où siège le Premier ministre, chef du gouvernement. Donc c'est le nom du bâtiment, comme Élysée, c'est le palais de l'Élysée où siège le président de la République, Beauvau, c'est la place Beauvau où siège le ministre de l'Intérieur, etc. Quelqu'un qui demande c'est quoi un arbitrage ? Ce que je vous expliquais tout à l'heure sur la réunion interministérielle, t'as deux ministères qui viennent s'engueuler à Matignon parce qu'ils ont une lecture différente des choses et ils sont pas d'accord pour le truc. À l'issue de la réunion, il y a une note d'arbitrage qui part au Premier ministre qui du coup va trancher en disant voilà ce qu'on va faire et voilà la position du gouvernement sur tel sujet. Et ce qu'explique Adèle, c'est qu'ensuite il faut aller le défendre et tout, et que parfois c'est le bordel. Moi, au gouvernement de François Hollande avant Valls, c'était Jean-Marc Ayrault. Le sport national des ministres, c'était de contester les arbitrages de Jean-Marc Ayrault auprès du président de la République directement par SMS, qui du coup donnait des arbitrages différents de son Premier ministre. Et du coup, mais c'était un enfer. C'est vraiment le pauvre Jean-Marc Ayrault. Enfin, il a vécu des trucs. Et tous les ministres ont envoyé des SMS en disant ah, je suis pas d'accord, c'est nul, il est nul Jean-Marc, il m'a dit ça alors que moi, je voulais plus de budget. Et comme Hollande, il donnait toujours raison au dernier qui sortait de son bureau, il disait « Ouais, t'as raison, je vais lui parler. »
Ça, c'est particulièrement frustrant. Et je tairai le nom de la personne qui m'a fait subir ça à plusieurs reprises, mais qui travaillait pour un ministre à l'époque. Et ministre dont il décide, enfin qui ne respectait pas les arbitrages de Matignon, donc c'était un petit peu pénible.
Je vois qui c'est.
Ministre dont Juppé était la tutelle.
Je donne trop d'indices.
Je donne des petits indices pour ceux qui suivent un peu plus. Après, on expliquera ce que c'est que la tutelle. C'est quand tu as un ministre qui est ministre
de plusieurs domaines.
De plusieurs domaines, ministre d'État et les ministres des Affaires étrangères. Et vous savez, vous avez les ministres délégués ou les secrétaires d'État qui sont sous la tutelle de ce ministre aux fonctions un peu plus larges et importantes. Bref, il respectait jamais les arbitrages. Et quand je disais, mais c'est pas possible, pourquoi tu me fais ça? Parce que je bip le nom, évidemment, de cette personne, parce que je pourrais avoir des problèmes. Et, et à chaque fois, il me disait, non, mais tu comprends. Il utilisait le prénom de son patron, fait, tu comprends, il en a parlé directement avec Nicolas. Parce que, évidemment, dans ces cas-là, ce n'est pas le président de la République qui émet un arbitrage, c'est Nicolas. Parce ouais, qu'évidemment, à notre petit niveau, enfin, je veux dire, je rappelle qu'à l'époque, on avait quoi, je devais avoir 27 ans, et l'autre avait le même âge que moi, et c'était vraiment genre, ouais, c'est Nicolas, c'est Alain, c'est, comme si ouais, on était
pareil, des c'était François, c'était Jean-Marc, Manuel pour Valls, évidemment.
Bah, évidemment.
Moi, j'ai connu des hurlements au téléphone de ministres. De ministres au téléphone qui hurlent sur le Premier ministre en disant mais tu te rends compte, mais t'es un connard, mais tu me fais un coup de pute, moi si c'est comme ça je me barre, je vais en parler à François, ça va pas se passer comme ça, enfin bref, c'était, je vous laisse imaginer le niveau. Et d'ailleurs sur le téléphone portable c'est hyper intéressant parce que Nicolas Sarkozy a eu le même problème que Barack Obama au début de son mandat où tous ses conseillers lui disaient il faut que tu arrêtes d'avoir
vous
ton téléphone.
Vous êtes trop beau, pardon, non c'était pas ça. C'était
extraordinaire. Il faut que tu arrêtes d'avoir ton téléphone. On ne peut pas vivre dans un système où le président de la République est contactable en SMS par des ministres, des députés, etc. Au début, le président résiste en disant « mais si, c'est hyper important pour moi de garder le lien avec, pour recevoir des conseils, etc. » Et en général, au bout d'un an, un an et demi, ils comprennent et ils abandonnent le téléphone portable. Obama, c'était pareil, il avait un BlackBerry en 2008 et il ne voulait pas l'abandonner, mais le secret de service, pour des raisons de sécurité, l'a obligé à l'abandonner. Et il y avait eu un truc que j'avais discuté avec... le conseiller communication de Bertrand Delanoë, tu sais, c'est Gaspard Ganzer, qui m'expliquait que Bertrand Delanoë, quand il était maire de Paris, il n'avait pas de téléphone portable. Et la raison pour laquelle Bertrand Delanoë n'avait pas de téléphone portable, c'est justement pour des principes de hiérarchie où il disait le maire de Paris n'est pas sonnable. Vous ne pouvez pas me sonner, vous ne pouvez pas m'envoyer un SMS, me parler d'un dossier, vous devez passer par mon câble. Ils doivent être au courant avant moi, vous devez être prêt, ils font un filtre, mais il y a aussi un principe hiérarchique de je ne suis pas contactable, ça ne marche pas comme ça. Alors, il m'expliquait aussi que logistiquement, c'était un peu compliqué parce qu'il y avait au moins un conseiller qui devait savoir où est Bertrand, à quel endroit il est, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, parce que maire de Paris et haute responsabilité. Mais voilà, donc il y a ce principe du téléphone portable où il ne faut pas que les présidents gardent leur téléphone, et ça, je le comprends.
Bah écoute, je ne sais pas si ça vous intéresse de continuer d'en parler, mais Juppé, c'était très intéressant parce que ouais. Moi, j'avais bossé pour d'autres ministres dont j'avais le numéro de téléphone portable parce qu'il est minuit, t'es au Sénat ou à l'Assemblée et il y a une merde. Ouais, mais même, Juppé, par exemple, je n'avais pas son portable. Alors que les autres ministres, tu vois, je textais direct. Bon, certains m'envoyaient des textos un petit peu violents parfois, donc il est 1h du matin,
t'es
en train de te prendre une énorme claque, c'est un peu brutal. Mais il y avait un lien de communication direct. Juppé, j'ai jamais eu son portable. Alors que j'étais sa conseillère parlementaire, donc je trouvais ça un petit peu étonnant.
Ah, c'est vrai, tu pouvais pas le textoter.
Eh bien non, mais c'était super parce qu'il avait en fait des gens, enfin trois personnes, tu vois, le directeur de cabinet, le conseiller politique et. Ou le chef de cap, je pense. Trois ou quatre personnes comme ça, qui avaient le téléphone portable de Juppé. Sinon, les autres, on passait par l'OS. S'il y a une urgence.
L'OS, c'est l'officier de sécurité.
Et donc, on appelait l'officier de sécurité s'il y a vraiment une urgence. Mais normalement, quand on est dans les équipes, il y avait vraiment ce principe hiérarchique de les infos sont filtrées. Ouais. Il ne faut pas que ça arrive en direct. Et effectivement, quand tu as sinon tes infos en direct, alors ce n'était pas les mêmes problématiques celles que tu évoquais quand tu es président, mais c'était intéressant. A-t-il déjà eu un portable? Mais oui, arrêtez de vous moquer d'Alain Juppé parce que figurez-vous qu'il était un des premiers hommes politiques à bloguer.
Mais oui.
Il a apporté le blog politique en France.
Absolument.
On oublie ça, mais vraiment, c'était
genre... Qui existe toujours, d'ailleurs, le blog d'Alain Juppé
existe
toujours.
C'était un truc de dingue à l'époque.
Je suis pas sûr qu'il le mette toujours à jour autant qu'avant, mais effectivement, t'as raison, fin années 90, début années 2000, Alain Juppé était un blogueur politique passionnant, tous les journalistes lisaient ses papiers, Jean-Luc Mélenchon aussi était le deuxième du même acabit, c'est-à-dire le blog de Jean-Luc Mélenchon et le blog d'Alain Juppé, c'était les deux... Grand blog, mais c'est vrai.
À l'époque, oui, c'était Juppé le TikToker, tout
mais
à
ouais,
fait.
Complètement.
Dis donc, un peu plus loin dans le chat, j'ai vu quelqu'un qui parlait d'un clip le plus drôle qu'ils aient vu politique et il remercie la ministre de la Culture pour ça.
C'était quoi?
Je sais pas, c'était quoi si vous l'avez, parce que j'ai raté ça. J'ai vu qu'elle avait posté un truc sur Instagram, parce que ne poste jamais rien. Rima Abdulmalak.
Rima Abdulmalak.
Et j'ai vu qu'elle avait posté, et je regarde. J'ai pas eu le temps de regarder puisque j'arrivais chez toi. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Racontez-nous.
Alors attends, il y a Dart qui m'envoie le Twitter. Merci.
Ah ouais, vas-y.
Merci. Hop.
Alors. Peut-être même on peut le regarder tous. Oh, ça a l'air génial.
Alors attends, tu vas prendre le casque, pas celui-là, mais celui qui est coloré. Ouais, c'est ça. Tu le mets sur tes oreilles.
Ouais.
Hop. On passe sur l'écran. Je le remets au début. Thank you. Moi, je l'ai pas entendu, donc je vais le remettre.
Bah, il dit rien, c'est de la musique. Il se passe pas grand chose, ce Normand parlant. Tu vas voir. Oh mon Dieu, mais c'est absolument génial. C'est-à-dire que c'est.
Vas-y, tu peux parler.
Mais non, mais j'avais un peu peur que ce soit beaucoup plus cringe. Mais en fait, je trouve que c'est pas si mal. C'est pas jouer de ouf, on va pas se mentir, c'est pas son métier, ça va. Mais je trouve que l'autodérision à la fin est quand même plutôt pas mal vue. Ouais, franchement, j'avais hyper peur. C'est gênant son jeu d'actrice, ouais, mais du coup, c'est pour ça qu'elle a bien fait d'être plutôt ministre. C'est exactement ça, elle se fait harceler par Jack Lang.
Oh, c'est formidable.
Je pense qu'en vrai, en plus, je pense que c'est pas tout à fait faux, si je peux me permettre. Je crois que...
Alors, on va parler de Jack Lang deux minutes.
Je crois qu'il est, mais tellement, tellement présent avec les ministres de la culture, mais tout le temps.
Ah, mais...
Et je sais plus qui m'a raconté ça. C'est toi qui m'as raconté ça, peut-être. Alors, je sais plus quel ministre c'était.
Alors moi j'ai une anecdote sur Jack Lang, c'est que Jack Lang a longtemps été la personnalité politique préférée des Français, parce que très bon souvenir des années Mitterrand, c'est lui qui a été rappelé au ministère de l'Éducation nationale pour réparer les conneries d'Allègre en 2001, etc., en 2000-2001. Et Jack Lang, voilà, c'était une personnalité politique préférée des Français, à gauche, voilà. Et dans les années 2010, le JDD, qui est le journal qui tient le classement des personnalités politiques préférées des Français, Jack Lang avait arrêté pas de reculer parce qu'il y avait des nouvelles têtes qui étaient arrivées devant et tout, avait fini par être sorti du classement et les gens n'étaient plus sondés sur le nom de Jack Lang. Quand on leur demandait, parmi les politiques suivants, lequel est votre préféré, ils avaient fini par retirer le nom de Jack Lang. Et il paraît que Jack Lang a fait des pieds et des mains au JDD pour qu'il remette son nom dans le classement parce qu'en fait, il ne vivait que de ça. Il ne vivait que du fait d'être la personnalité politique des préférés, préférés des Français. C'était la seule raison pour laquelle on continuait à l'inviter sur les plateaux télé, dans les machins. Et en fait, la mise à la retraite d'office de Jack Lang en le retirant de ce classement, pour lui, c'était mettre un dernier coup sur son cercueil. Et
c'est hyper, ouais, c'est hyper violent. Non, alors moi, l'histoire que j'ai eue, c'était une ministre. Alors, je n'arrive pas à savoir si c'était Fleur Pellerin, Audrey Azoulay. Bref.
Aurélie Filippetti.
Ouais, non, je sais pas, plus laquelle du tout, mais quoi qu'il en soit, elle est nommée ministre. Et là, on lui dit, enfin, le président lui dit, mais passez du temps avec Jack Lang, il vous expliquera tout. Et je trouve ça terrible parce que c'était même pas une blague. Ça pourrait être une blague, mais c'était vraiment pas une blague. C'était vraiment genre, en fait, et donc dans le chat, vous l'avez dit, ah, my bad, je savais pas qu'il était plus ministre de la culture, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que les premiers ministres et les présidents eux-mêmes disent au ministre de la culture d'aller se rencarder sur comment ça se passe.
Ah non, le mec est ministre de la culture.
Jack Lang, c'est ouf.
Et du coup,
c'était Fleur Pellerin.
C'était
okay.
Fleur Pellerin, ouais. Et du coup, jusqu'à aujourd'hui, où il fait une vidéo avec la ministre. Bon, elle est pas méchante, la vidéo, elle est marrante.
Oh, elle est plutôt très marrante. Non, j'avais hyper peur d'un truc. Non, parce que franchement, ils nous en sortent quand même.
Ah oui, non, on a eu des peurs.
Non, mais enfin, même, continuons à regarder. Enfin, je veux dire, comme on dit, à la ministre de la jeunesse et justement du service universel. Qui fait des facecam.
Sarah El Haïry.
Ouais, Sarah El Haïry, exactement. Qui fait des facecam parfois très gênants. Enfin, on a quand même
un bon
paquet. Là, c'est plutôt pas mal fait. C'est de l'autodérision,
ouais,
pour tout le monde.
Pour le coup, ça me donne plus envie d'aller au cinéma que le post sur Insta de Bruno Le Maire qui me donne pas vraiment envie de mettre un col roulé. Enfin, vous voyez, en même temps, tu me diras, ça a rappelé à tout le monde la consigne de baisser son chauffage et tout, pourquoi pas, mais...
Non, mais surtout, t'as mal compris les réseaux sociaux de Bruno Le Maire, Jean Massier, ça va pas du tout.
J'ai mal compris.
Il a pas dit qu'il fallait mettre des cols roulés,
il
a dit
que lui...
moi, je vais en mettre un. Après, ce déferlement médiatique, c'était horrible, il était obligé quand même de demander qu'on arrête de dire ça sur les réseaux sociaux.
Je suis désolé, j'ai mal compris, Bruno, excuse-moi.
Le fait qu'il ait posté des photos de lui dans la foulée en col roulé n'avait rien à voir, c'est juste qu'il poste beaucoup de selfies de lui. Là, c'était malencontreux qu'il porte un col roulé ce jour-là. C'était pas fait exprès.
C'était pas fait exprès
non.
Du tout. Pas du tout. Donc ouais, non, elle est bien. Non, la vidéo est pas. C'est un peu le cringe. Mais alors, du coup, je suppose que vous allez tous faire des montages un peu débiles en changeant l'affiche avec autre chose. Bonne raison d'aller au cinéma, je sais pas.
Ceci dit, c'est vrai que la raison d'aller au cinéma pour éviter les textos de Jack Lang quand t'es ministre de la culture, franchement, c'est assez bien trouvé, quoi. Je l'avais pas vu immédiatement venir. Après, c'est très drôle. Je pense que c'est quand même pas hyper facile à comprendre si grand public que ça. Je pense qu'il faut déjà s'intéresser.
Faut connaître qui est Jack Lang. Je pense que les jeunes qui nous écoutent, ceux qui sont nés en 2000, ils voient Jack Lang.
C'est pas évident pour tout le monde, quoi.
C'est qui ce mec?
Pourquoi il harcèle la ministre?
C'est qui le vieux qui s'est assis à côté d'elle?
C'est quoi le sujet?
C'est quoi ce mec qui cancel? Clairement, il faut la ref. Il faut la ref. Par ailleurs, il y a aussi des gens qui ne savent pas qui est Rima Abdulmalak. Hein. S'ils tombent sur la vidéo comme ça, ils vont se dire so what? C'est qui la meuf?
C'est clair.
Pourquoi elle est aussi moche?
Elle n'était pas du tout connue.
Peut-être qu'un petit bandeau Rima Abdulmalak, ministre de la Culture, en début de vidéo, aurait permis à des gens de percuter les ministres. Je sais pas.
Est-ce que le fait qu'elle soit dans un bureau, tout ça, ils ne le mettent pas, qu'elle est ministre de la Culture?
Non, tu vois son grand bureau, mais tout le monde, je sais pas.
Ouais, au début, on comprend qu'elle est ministre avec le bureau. Ouais, sans doute, il y a quand même un truc un peu de setup.
Oui, elle a du pouvoir, oui, d'accord.
Mais c'est vrai que non, mais elle n'est pas connue. Elle fait pas partie des. Il y en a plein. Il y en a pas qu'il y a des ministres qu'on ne connaît pas. Hein,
elle est, oui, ouais, moi je les découvre à chaque fois au QAG.
Je suis là, genre, quoi? De l'enfance? Mais que. Ah bon? Ok. mais qui êtes-vous, madame?
Moi, c'est au QAG, je fais semblant de connaître et tout. On va tout de suite écouter le ministre qui répond. En fait, je connais pas le nom du mec. Hein. Je suis en mode, c'est qui déjà ce con? Putain, ils l'ont nommé qui déjà? Ministre de la mer, ministre de tout ça. Rima Abdulmalak était conseillère d'Emmanuel Macron, chargée de la culture. Donc au cabinet d'Emmanuel Macron, elle est devenue ministre. Elle est sortie de l'ombre du cabinet du président pour rentrer dans la lumière du gouvernement.
Mais elle travaille dans le domaine de la culture depuis hyper longtemps.
Oui, elle
a été conseillère culture à la mairie de Paris.
Ouais, ce qui est quand même pas rien. Hein.
Et elle a travaillé, elle aussi, pour faire la promotion de la culture de la France à l'étranger à New York.
Et elle a été déléguée générale de Clowns Sans Frontières.
Ouais, elle est hyper investie dans l'association Clowns Sans Frontières.
Qui est une asso très cool, hein, qui fait des trucs très chouettes.
Non, elle est plutôt...
Tu l'as connue, toi?
Ouais. Donc je suis peut-être pas très objective, mais c'est pour ça que j'avais un peu peur, je pense.
Je la connais pas. Hein,
mais en tout cas, au-delà de perso, de son arrivée, de son parcours, je trouve qu'il n'y a pas eu de trucs trop gênants. Elle nous a pas fait des pubs sur les lissages brésiliens. Elle a pas. Elle prend pas la parole.
Non, c'est vrai, elle a été nommée.
Là, c'est un truc de... qui est en lien avec son ministère. Enfin, tu vois, elle prend pas la parole sur d'autres sujets. Je sais pas si vous avez vu là, le truc qu'a tweeté Bruno Le Maire avec Spider-Man. Si,
sur la NUPES et le RN.
Ouais, sur la NUPES et le RN. Oui,
elle nous a pas gratifié de tweets comme ça.
Voilà, clairement, Bruno Le Maire, il souffle un peu le bâton pour se faire. Braise de se faire battre. De dos de la cuillère.
De la peau de l'ours. Au demeurant, elle a été nommée en mai dernier. On n'a pas parlé de sujet culture au niveau national depuis mai dernier. Donc on verra si demain il y a une grève dans les théâtres et tout. Peut-être qu'on entendra plus Rima Abdulmalak qui sera sur les plateaux télé, etc. Pour l'instant, elle gère ses dossiers.
Elle gère bien. Elle a eu une augmentation du budget de la culture de 7%. Je t'avoue qu'à une période où tout est en train de descendre.
Dans le contexte, c'est pas. Tout augmente là plutôt. Enfin, non.
Non,
les ministères régaliens augmentent.
Il y en a eu qui.
Il y en a qui ont perdu un peu de pognon. Oui.
Bruno le même.
Le tweet est marrant. Ouais, moi j'ai vu le tweet. Non, en vrai, le même est rigolo. Est-ce qu'un compte Twitter de ministre. En fait, c'est une question que je trouve intéressante. On en a déjà parlé avec vous d'ailleurs. C'est comme Jean-Baptiste Djebbari qui faisait un TikTok, etc. machin, où il se montrait, il se mettait en scène en train de prendre un TGV, un avion, un hélicoptère, machin, mais qui est ministre des Transports. Est-ce que c'est le rôle de nos politiques que de faire preuve de légèreté et de distance critique et d'autodérision dans leur communication? On peut en discuter. Moi, je ne suis pas fermé à l'idée parce que j'ai géré la communication de personnalités politiques et tout, donc je vois le truc. Donc ça humanise, je suis d'accord. Ça peut faire passer des messages, je suis d'accord. Genre là, aller au cinéma, messages politiques, messages divers et variés et tout. Après, est-ce que ça décrédibilise les ministres quand ils sont obligés de revenir deux jours plus tard au moment où il y a un attentat pour être très sérieux, costume, cravate serrée? Je sais pas. On peut en parler parce que responsable politique, là, on parle de membres du gouvernement, mais il y a aussi des responsables de l'opposition. Je veux dire, quand Jean-Luc Mélenchon, il fait le guignol sur Insta et sur TikTok, on peut en discuter aussi, tu vois, de est-ce que c'est bien sérieux tout ça? Ce monsieur veut être président, il fait des blagues. Je peux comprendre l'argument de la part d'un électeur qui peut se dire, dis donc, c'est pas très sérieux. Donc voilà, c'est une vraie question, je sais pas.
Mais il y a Gérald Darmanin aussi, dernièrement.
Il fait des blagues, lui?
Qui a été clashé. Non, il fait pas de blagues, mais il fait des recommandations. Donc, je sais pas, il a recommandé un livre, une pièce de théâtre, ou je sais plus ce que c'était. Mais c'était le lendemain de l'assassinat de la petite Lola, et avant qu'il ait écrit. En tout cas, il n'avait pas publié sur Twitter quelque chose, je crois. Son premier tweet après cet événement était un tweet de recommandation d'un truc culturel qui n'est effectivement pas le cœur de métier de ministre de l'Intérieur. On se pose la question, est-ce qu'une fois que t'es ministre, tu dois plus utiliser les réseaux sociaux pour des sujets plus, en tout cas, connexes et personnels? Et en même temps, on te demande d'avoir de l'influence. Enfin, vous avez tous cité Djebari, et t'en parlais aussi. Tu vois, même là, il est plus bidistre et il vient de faire un truc, tu l'as vu, qui est quand même un peu gênant.
Oui, tout à fait. Oui.
Enfin, voilà,
il
parle de 49.3, enfin, allez voir son compte sur TikTok.
Ce qui est intéressant, il faut bien se rendre compte d'un truc, c'est que plus on va avancer dans le temps, plus on va en avoir des ministres qui utilisent les réseaux sociaux, mais à titre perso. Hein. Enfin, regardez la génération des jeunes insoumis, etc. Ces mecs-là, ils sont comme toi, comme moi, comme vous, sur Twitter, sur Twitch, sur Insta, sur TikTok et tout. On va aller de plus en plus vers des ministres qui ont l'habitude de l'usage des réseaux sociaux et qui donc ont... Donc c'est une réflexion que je trouve intéressante. On va en avoir de plus en plus. Tu vois, c'est marrant, quand j'avais organisé un match amateur de jeux vidéo en stream entre la France Insoumise et la République En Marche,
ouais,
avec un député de la France Insoumise et un député de la République En Marche et leurs militants qui jouaient au même jeu, un match amical, une rencontre entre les deux camps politiques. Et c'était trop cool, c'était bonne ambiance, on avait beaucoup rigolé et tout. Et il y avait quand même des gens dans le chat, et je le comprends, hein, qui disaient « tout ça n'est pas très sérieux, le rôle des députés n'est pas de venir sur Twitch jouer aux jeux vidéo, ils doivent voter des lois et tout ». Je le comprends, ils n'ont pas tort, c'est une question d'image et tout. En même temps, j'étais le premier à leur dire que jouer aux jeux vidéo ne les empêche pas d'être députés, que c'est des gens qui jouaient aux jeux vidéo avant d'être députés, je vois pas pourquoi ils arrêteraient sous protection députés. Et puis surtout, c'est des députés que je connais, qui sont des amis, et avec lesquels moi je joue aux jeux vidéo à 2h du mat quand ils n'arrivent pas à dormir. Donc on vous montre aussi une partie réelle des gens qui sont les premiers à avoir des loisirs. Donc bon, je sais pas, c'est intéressant.
Insoluble question, je pense.
Sinon, question d'actu pour faire semblant d'avoir préparé cette émission. Marine Le Pen et les députés RN qui votent la motion de censure de la NUPES.
Ouais.
Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Comment tu l'analyses ?
Je trouve que c'est très stratégique et très malin.
Ouais, c'est bien joué.
Ouais, franchement, je vois même pas comment ils auraient pu faire autrement, en vrai. Je trouve que c'est le truc le plus malin. Parce que ce qui se passe, c'est que... Il y a deux motions de censure, ça vous avez suivi, puisque vous avez été 10 000 à suivre le stream.
D'un certain streamer qu'on ne nommera pas.
C'est tellement malin parce qu'il y a deux motions de censure. Il y en a une qui se retrouve avec 90 voix, donc 89 plus. Je ne sais pas qui est le dernier qui a voté.
Dupont-Aignan.
Ah oui, c'est ça.
Non, c'est un insoumis. C'est Nelson...
J'ai pas eu le temps d'aller regarder, je me demandais qui était ce...
C'est un insoumis d'outre-mer, j'ai oublié son nom, enfin qui est rattaché au groupe insoumis, tu vois là.
Donc, clairement, la motion de censure RN ne récolte que les voix du RN, et ensuite t'as la motion de censure NUPES qui, elle, récolte les voix de la NUPES, des divers gauches qui décident de la voter, et du RN, et donc obtient un total de 239 voix. Alors que pour faire basculer le vote et donc exiger la démission du gouvernement... Il fallait 289 voix. Donc il manque 50 voix. Et qui est-ce qui a un groupe politique qui a autour de 50 députés qui pourraient donner 50 voix ? C'est les LR, qui ont 63 députés. Et donc, le message envoyé est tellement génial, c'est le groupe d'opposition à Renaissance, Macron. En Marche, Macron. Ce n'est pas les LR, quand bien même ils vous le disent. De toute façon, c'est que nous.
Parce que eux, ils sont la béquille sur laquelle se repose LR.
Eux, ils sont du côté de ceux qui sauvent le gouvernement, pas du côté de ceux qui le balancent. Donc, ils sont décrédibilisés pour toutes les prochaines élections. Ça ne veut pas dire que, enfin, tu vois, la vie bouge, il se passe plein de trucs, donc on aura peut-être oublié. Mais là, maintenant, le message est très clair.
Ouais, absolument. Je suis d'accord avec toi. Moi, c'est une analyse que j'avais faite. J'avais dit aussi que paradoxalement, ça renforce la position des LR, qui maintenant ont un poids phénoménal.
Qui eux, exactement, disent nous, on est ce qu'était
un moment donné votre béquille,
les centristes, ce qu'ont été souvent les centristes.
Sous Sarkozy, oui.
À l'Assemblée nationale.
Vous voulez qu'on continue de votre béquille, acceptez nos amendements. Voilà, ça va être ça les LR dans les prochains mois, et on le voit et on l'a vu dans le discours d'Olivier Marleix. Président du groupe LR à l'Assemblée, il fait monter les enchères très très fort. Hein. Il met une pression mais d'enfer sur le gouvernement, et il a raison. C'est le faiseur de roi.
C'est assez drôle parce que c'est un peu un discours double twist arrière. C'est genre, vous êtes nuls, vous n'avez rien fait, c'est un scandale, le 49-3, c'est une fin de règne. Argument qu'ils ont d'ailleurs tous utilisé. C'est nul, c'est horrible, mais on va pas aller voter de toute façon. Donc c'est vrai que t'es un peu genre, c'est...
C'est vrai. Autre question qu'on pourrait se poser, c'est y aurait-il un monde dans lequel le Renaissance ferait le même travail, mais dans l'autre sens, avec une partie de la NUPES qui accepterait de négocier avec eux quelques textes et tout ? En fait, je ne crois pas, parce que les socialistes n'ont que 30 voix. Les socialistes n'ont que 30 voix. C'est pas assez. C'est pas assez. Si les Verts et les socialistes... Mais putain, il faut les convaincre, les mecs. Hein. Parce que c'est aussi ce qui est intéressant, c'est que... qui est-ce qui reste aux Républicains aujourd'hui? C'est tous ceux qui n'ont pas déjà rejoint Macron, qui eux sont déjà partis avec Édouard Philippe, avec Bruno Le Maire, avec Gérald Darmanin, avec Sarkozy, etc. Donc en fait, les députés, les Républicains aujourd'hui, c'est les plus anti-macronistes du parti. Et t'inquiète que eux, pour les convaincre de voter ton amendement, faut y aller. Hein. C'est pas des centristes, les mecs. Hein. C'est pas des ciotistes non plus, pas tous. Je dirais pas qu'Olivier Marleix est un ciotiste, mais donc c'est un peu les LR purs et durs conservateurs.
Non, c'est des sarkozistes, quoi.
Ouais. Mais bon, donc du coup. Et pareil au PS, ouais, c'est ce que je voulais dire, c'est que pareil au PS, vous avez bien vu Olivier Faure qui signe avec la NUPES, etc. Parce qu'Olivier Faure, il est aussi au sein d'un parti dont se sont barrés tous les marcheurs qui étaient séduits par En Marche. Ils sont déjà partis, les électeurs comme les responsables politiques. Donc Olivier Faure, dans son conseil national du PS, il est majoritaire avec des gens qui veulent être de gauche avec la NUPES. Donc pareil, Olivier Faure, pour le convaincre de voter un amendement de la majorité, il faut y aller. Hein.
C'est marrant, il y a un commentaire. Vas-y. De ceux qui sont pas partis de LR, c'est quand même un peu les mêmes que les macronistes, tu vois pas la différence. Et c'est une excellente remarque, parce que je pense que même eux, entre eux, ont du mal à voir la différence. C'est ouais. Pas que des sujets de fond, là, pour le coup, je pense que c'est aussi des questions de loyauté, de décision. C'est pas que du fond, enfin, je veux dire, Gérald Darmanin est parti du côté des macronistes alors qu'il faisait quand même partie de la droite très, enfin, je dirais un peu plus dure, très sarkoziste, qui était, enfin, ce qui reste un peu chez les LR aujourd'hui et qui est considéré maintenant du coup comme un traître par les LR. Mais d'ailleurs, on le dit aussi, même Sarkozy, il est pro-Macron, donc maintenant tout est un peu...
Ouais, tout est un peu compliqué à mesurer.
Un gros bazar.
Mais
je disais quand même... Le résultat présidentiel de Valoche, bah ouais.
Oui, c'est ça. Et je disais d'ailleurs, il y a quand même des gens chez LR qui font de la philosophie et qui réfléchissent à quelle est la différence entre la droite LR et le macronisme. Il y a Julien Aubert qui avait publié une tribune en juillet dernier dans Le Figaro où il proposait un projet de refondation des LR, où il faisait une critique acerbe du macronisme. Il y a aussi Bruno Retailleau que j'ai interviewé et qui fait une réflexion en disant « Mais Macron, c'est pas la droite ». Macron, c'est un opportunisme mondialisé des hautes sphères de la société. C'est pas du tout la droite populaire. C'est pas du tout la droite ancrée dans les territoires. C'est pas du tout la droite ancrée dans la tradition et dans les racines. La PMA, la fin de vie, etc. Tout ça, les vrais conservateurs, ils sont en mode, mais c'est hors de question. Donc, il y a aussi des gens chez LR qui essayent de recréer une identité d'une droite conservatrice, même pas vraiment libérale. Hein. Il y a aussi une forme de gaullisme social en disant, mais Macron, c'est un mec qui saccage. Y compris des acquis historiques que nous, la droite, on essaye d'y aller, on fait gaffe. Même Sarkozy était meilleur en dialogue social que Macron, avec Xavier Bertrand à l'époque qui était son ministre du Travail, et qui, c'est vrai, Xavier Bertrand passait du temps à discuter avec la CGT, avec la CFDT, etc. Bon, il faisait quand même des lois contre lesquelles les syndicats étaient, mais en termes de dialogue social, c'était un autre niveau. Macron se fout complètement du dialogue social, il a aucun problème, il fait ses trucs dans son coin. Donc c'est assez intéressant, quoi. Prends par exemple Bellamy, il n'est pas Macron compatible. Ouais, alors Bellamy, c'est un peu la droite, la manif pour tous, qui est d'un conservatisme, effectivement, sur la question des valeurs, des questions de société, comme on dit vulgairement.
Mais parce qu'avant, en fait, quand il y avait le grand UMP, en fait, toutes ces questions aussi clivantes aujourd'hui de conservateurs et progressistes, elles étaient un peu annihilées, parce que tout le monde était au sein
dans
la majorité présidentielle. Tout le monde était UMP et on avance tous ensemble, même si bon, bah, parfois c'est un peu compliqué, on n'est pas tous d'accord sur le mariage pour tous, etc. Mais quand même, il y avait une espèce... En tout cas, ils essayaient de créer des consensus. Le problème, il ne se posait pas là. Là, maintenant, j'ai l'impression qu'on va faire... Enfin, ça va être plus ces sujets de société qui vont devenir clivants, presque un peu plus comme à l'américaine.
Ouais. Tu as dit un truc intéressant, c'est la grande UMP. Il y a beaucoup de gens dans mon chat, je pense, qui sont assez jeunes et qui ont énormément de mal à comprendre quand je leur parle de l'UMP ou du Parti Socialiste, ancienne formule, de partis gigantesques dans lesquels des tendances existaient et qui effectivement se rassemblaient pour soutenir des candidatures communes. Quand vous y pensez, dans le même gouvernement Sarkozy en 2007, on avait des gens comme Boutin, qui était ministre du Logement, ou encore l'autre proche de l'extrême droite de l'époque, j'ai oublié son nom, et il y avait aussi Fadila Amara, Ramayad, Nathalie Kosciusko-Morizet, qui a quand même écrit un bouquin contre l'extrême droite et tout. Enfin, je veux dire, c'était ça l'UMP. C'était une partie de l'UDF centriste, européiste, libérale, y compris sur les valeurs et tout. Il y avait aussi Bachelot, quand même, qui a voté le Pax, quand même pas rien. Et vous aviez aussi une droite conservatrice, d'origine catholique, machin et tout. Et c'était ça l'UMP, la grande UMP, c'était ça. Et pareil pour le PS. Faut pas oublier que le PS, t'avais des Strauss-Kahniens avec des Valls, des issues de la deuxième gauche, de Rocard, etc. Et t'avais Mélenchon. Et t'avais Mélenchon, la gauche de la gauche, Emmanueli, machin, la gauche du PS, qui était franchement proche du Parti communiste. Moi, j'ai connu, encore une fois, je vous l'avais déjà raconté, mais j'ai adhéré au Parti socialiste pendant pas très longtemps, en 2005-2006. J'ai un souvenir d'Université d'été de La Rochelle, où il y avait une moitié des camarades qui chantaient l'International le point levé, pendant que l'autre moitié des motions machin restaient à bouffer, à boire leur bière, et non, on chante pas l'International, c'est des vieilles lunes gauchistes. Au sein du parti, on chantait l'International. Mais pas tout le monde. Bah, tu vois, c'est...
Mais ça a pas duré. Enfin, la question, c'est combien de temps ça a duré ? Parce qu'effectivement, dans le chat, vous avez parlé pour la droite du RPR, l'UDF. Toi, tu parlais aussi des différents partis qui ont composé ensuite le grand parti socialiste. Mais c'est vrai que c'était assez récent. Enfin, tu vois, l'UMP, c'est date de 2000.
L'UMP, enfin, c'est 2000.
C'est récent. Je pense que certains d'entre vous n'étaient pas nés, donc ça paraît pas récent. Mais sur l'histoire de la Ve République, c'était assez récent.
Je veux dire... L'UPS, c'est 74. Mais je vois ce que tu veux dire. Oui, ça a beaucoup bougé aussi en même temps, oui.
Non, mais parce qu'avant, il y avait ces divergences avec l'UDF, avec le RPR.
Ah oui, c'est vrai.
Il y avait des partis qui représentaient ça. Et ensuite, on a dit, mais ensemble, on sera plus fort et on ira plus loin. Vas-y, on se met tous ensemble. Et en fait, on ne peut pas toujours se mettre tous ensemble. Parce que enfin, moi, je me souviens, je travaillais donc en 2000 au Sénat. Et c'était assez rigolo parce que tout le monde continuait de parler des ex... Ah ben moi, je suis un ex-RPR... Moi, je suis un ex-UDF. Personne n'était devenu UMP. Bon, moi, je n'étais pas militante, donc je traînais très peu dans les arcanes de l'UMP. Mais bon, je les fréquentais quand même un peu. Et c'était intéressant, comme tout le monde revenait en permanence
à son identité.
Son identité. Et donc, c'est aujourd'hui...
Mais quand tu prends Renaissance, aujourd'hui, Renaissance, il y a des gens qui sont issus de l'UMP, donc Horizon, Agir... et des Gérald Darmanin et des Bruno Le Maire, mais tu as aussi des gens issus des écolos et des socialistes, tendance Olivier Dussopt, Barbara Pompili, etc. Eux aussi cohabitent au sein d'un grand parti où je suppose qu'ils ne sont pas d'accord sur tous les amendements. D'ailleurs, il y a eu 2-3 articles qui montraient que ça tirait un peu la tronche. Est-ce que pour gouverner le pays, on est obligé d'en fait être à la tête d'une coalition aussi grande moi, je pense. Hein, je ne sais pas.
C'est quoi ta question ? Enfin, ta réponse. J'ai compris ta question.
Mais... Tout président de la République l'a été parce qu'il a été porté par un nombre de forces politiques, parfois faisant le grand écart. C'est ça que je veux dire.
Tout à fait.
Donc, est-ce que Jean-Luc Mélenchon aurait pu présider la République en étant porté que par la France Insoumise en 2017 ? Je ne suis pas sûr. 2022, je ne suis pas sûr. Je pense que la NUPES a plus de possibilités de gouverner demain. Ça ne va pas être simple. Hein. Attention.
Et d'ailleurs, dans le chat, ils ont dit est-ce que l'UMP, ce n'était pas la NUPES ?
Mais si.
Et c'est exactement pareil.
Et c'est exactement ça. Et la NUPES, c'est ça. La NUPES, ça va de la gauche de la France Insoumise, où il y a des gens d'obédience, enfin dit historiquement trotskistes, qui aujourd'hui avalent des couleuvres en secouant des drapeaux bleu, blanc, rouge dans les meetings, ça doit leur faire bizarre, comme des gens du PS à la Olivier Faure, qui sont issus de la social-démocratie, et qui ont gouverné avec Hollande. Bon, bah, intéressant, difficile, pas simple, et c'est à l'exercice qu'on juge ça. C'est ce que je disais, sans critiquer ou sans faire preuve d'outrecuidance, mais c'est plus facile d'être uni dans l'opposition que dans la majorité. C'est quand t'es à l'œuvre que ça devient... Bah, tu vois, on parlait... Non, mais très intéressant. On parlait d'arbitrage interministériel. Vous imaginez un gouvernement NUPES ? Vous imaginez les arbitrages ?
Bah non, mais... Je me souviens, dans Baxit, quand on a reçu Julien Bayou, qui était en pleine négociation NUPES. Donc, on reçoit le mec... Il était... Mais genre, vraiment, son visage était différent, quoi. Il était éreinté.
Fatigué, il dormait 2 heures par nuit.
Et il nous a expliqué que... Enfin... Les problématiques déjà d'accord étaient majeures sur des trucs qui étaient quand même compliqués à accorder, mais qu'en plus il y avait les outils qui ne fonctionnaient pas. Certains utilisaient WhatsApp, Signal, machin. Donc c'est-à-dire qu'ils n'avaient même pas les outils, ils n'arrivaient même pas à mettre une décision. Un
ils n'utilisaient pas tous la même application pour discuter. Mais c'est intéressant comme anecdote. Mais d'ailleurs, sur la NUPES, le grand écart est parfois difficile. Par exemple, sur les élections européennes, vous allez voir que la NUPES va être divisée. Hein, ça, c'est clair. Il y aura une liste écolo, il y aura une liste insoumise, il y aura une liste PS. Parce qu'au Parlement européen, ils ne sont pas d'accord les uns avec les autres.
Le chat a la solution. On organise des barbecues vegan et hop, c'est réglé. C'est vrai, c'est simple, finalement.
L'arbitrage.
C'est
barbecue
c'est
vegan. Les politiques luttent contre la drogue, mais eux-mêmes en consomment. Tu en penses quoi ? Les politiques ne sont pas des gens meilleurs que nous. Ce sont pas des gens mieux. Ce sont pas des gens meilleurs. Ce sont des gens qui vivent dans le monde dans lequel on vit, qui partagent nos contradictions et qui consomment trop d'alcool, mangent trop gras, trop sucré, trop salé, fument des clopes alors que les politiques publiques essayent de nous diriger vers une consommation raisonnée d'alcool, de tabac, de trop gras, trop sucré, trop salé. Donc voilà, ils sont comme nous les politiques, ils sont parfois contradictoires. Moi je suis le premier par exemple, je fume des clopes comme un pompier alors que à titre politique je soutiens les politiques anti-tabac. Bon, bah, j'ai ma contradiction et je la gère difficilement.
Après, quand tu dis ils prennent des drogues, je ne sais pas quelles sont tes informations. Moi, je n'ai pas les mêmes. Mais je ne sais pas. Moi, j'étais un peu déçue, je dois reconnaître, parce que je pensais que je verrais beaucoup plus, que je verrais énormément de drogues circuler. Mais non, mais je m'attendais vraiment. Non, mais même pas qu'au ministère, mais je me dis, c'est pas possible le rythme que les gens ont. C'est pas. Donc, je m'attendais vraiment à ce qu'on propose des amphétamines ou que j'en entende parler et tout. Et c'est vraiment un truc, en 8 ans. J'ai pas eu une seule histoire de drogue.
Moi non plus.
Franchement, c'était déception, désolant.
Attends, j'étais au ministère de la Santé.
Ouais, mais justement, à mon avis, c'est l'endroit où tu pourrais récupérer le plus.
J'ai raconté l'anecdote où du coup, j'avais des collègues médecins qui parfois sortaient le carnet de prescription et te prescrivaient des espèces de pilules magiques.
Ah oui, donc si.
Pour t'aider à tenir.
Je suis sûr que chez vous, il devait y avoir des
pilules magiques. Mais c'était des médocs, c'était pas de la drogue, c'était pas de la cocaïne ou des trucs comme ça. Mais non, moi, ce que j'avais déjà dit à un journaliste qui m'avait posé la question, c'est quoi les drogues les plus consommées par les politiques ? Et moi, je leur disais la bouffe. Les politiques mangent beaucoup. D'ailleurs, il y a un bouquin qui avait été écrit là-dessus sur le rapport à la bouffe et au pouvoir qui est très intéressant. Les agapes romaines et tout, ça fait appel à des trucs intéressants. Le sexe et.
Tu mets l'alcool dans la bouffe ?
Et j'avais mis l'alcool. Non, ouais. L'alcool en plus. Donc voilà, moi je vois les politiques manger beaucoup, boire beaucoup et baiser beaucoup. C'était pour moi les trois trucs que consommaient le plus. Le café aussi, vous avez raison, oui, le café.
Ouais.
Donc voilà, donc oui, non, effectivement, ça dépend de quelle drogue. Moi je suis comme toi, faut pas croire, j'ai vu évidemment en soirée. Mais après, vous parlez de consommation de drogue, encore une fois, là on a des députés qui ont 25 ans, 30 ans, etc. Je vois pas pourquoi ils fumeraient pas de bœufs, alors que moi dans toutes les soirées où je vais, il y a des mecs qui font tourner des joints, tu vois. Il y a un moment, encore une fois, les mecs sont à notre image, hein. Louis Boyard, le mec, il a 25 ans, je suis sûr qu'en soirée, c'est un jeune étudiant de gauche de son âge, quoi. Évidemment qu'il fume des bédos.
Ça peut poser quand même un problème, tu te dis. C'est évident qu'il fume des bédos, mais en même temps, son métier, c'est de légiférer et de créer la loi qui ensuite est imposée au reste des Français. Je peux comprendre qu'on trouve ça pas tout à fait normal qu'il n'y ait pas un petit devoir d'exemplarité.
Non, je suis d'accord. Non, mais c'est intéressant, oui. Je suis d'accord, devoir d'exemplarité. Quelqu'un qui dit ça sent mauvais ton live, ça c'est parce que t'as le nez trop près de la bouche, mais c'est des choses qui arrivent.
ils font l'amour patriotique.
Il a dilé aussi, Louis Boyard, d'ailleurs c'était intéressant, dans une interview il disait « Ouais, quand j'étais étudiant précaire en galère et tout, ça m'est arrivé de vendre du shit, ouais. » Et il le disait en dénonçant une réalité, en disant « Il y a des étudiants qui sont obligés de dealer un peu et des meufs qui sont obligés de se prostituer pour pouvoir... » C'était dans un discours de contestation et de critique des étudiants et de leur précarité. Il y a des gens qui s'en sont émus et moi j'étais en mode Louis Boyard il dit une vérité en fait, il ment à personne, ouais il a dealé un peu à un moment.
C'est pas pareil de raconter ce que t'as fait avant, enfin j'ai pas Castaner qui a eu
que continuer à le faire avant, oui.
Que de continuer à le faire.
Non, je suis d'accord. Non, effectivement, il dealerait aujourd'hui, je serais en mode gros. Non, par contre, t'es député, t'es gentil. Donc, encore une fois, faut-il souhaiter que nos politiques soient des gens meilleurs que nous? Je suis pas sûr. Ouais, nos députés, ils vont à plus de 130 km/h parfois. Petit excès de vitesse de temps en temps, et c'est pas bien, il faut faire attention.
Moi, je suis pas d'accord avec toi.
T'es pas d'accord avec moi?
Non. Moi, je veux qu'ils soient exemplaires. Enfin, moi, quand je bossais avec eux, j'étais animée par le fait que, justement, ils allaient être exemplaires. Tu choisis pas cette carrière-là, avec toutes les contraintes aussi que ça impose, si en plus, t'es pas... guidé par quelque chose de supplémentaire. Moi, j'avais pas envie qu'il soit bêtement humain comme nous, en fait.
Enfin, non, je vois ce que tu veux dire. Je veux pas qu'il commette des délits graves, évidemment.
J'avais envie qu'il respecte vraiment. Enfin, tu vois, il y a un truc qu'on n'arrête pas de dire.
Qui nous tire vers le haut, ouais.
C'est assez rigolo, là, mais il y a des tweets et des trucs qui sortent sur le nouveau Premier ministre britannique, qui est richissime.
Ah ouais ?
C'est le plus...
Ah ouais, j'ai pas lu les articles,
c'est le plus riche. Il est riche à quasiment milliards, je crois.
Sérieux ?
Il est, je sais pas, 4 fois plus riche que les monarques.
Que la famille royale ?
Que la famille royale.
Putain, déjà, c'est vachement
bien. Il a épousé la fille d'une héritière. Je sais pas, d'une grande entreprise informatique. Enfin bref, le chat saura sans doute mieux que nous, mais quoi qu'il en soit, il est extrêmement riche. Et donc, il y a beaucoup de gens... Et il était ministre des Finances, donc c'est assez intéressant. Mais lui, il était chez McKinsey. Il était dans le conseil, mais je sais plus.
Rothschild.
Non, il était pas chez Rothschild, mais il était dans une autre banque. Je sais plus laquelle.
JP Morgan.
Ça doit être JP Morgan. Donc il a fait sa fortune tout seul, et ensuite il a aussi hérité de son épouse. Mais du coup, il y a plein de gens qui disent, bah c'est super parce que comme ça, il tapera pas dans la caisse.
On en est là.
Mais non, mais du coup, horrible. Et je me dis, est-ce que non, mais c'est une vraie question, tu vois, de se dire, est-ce que tu te rassures en disant, bah ouais, comme ce mec-là, il a pas d'autre intérêt que finalement faire du bien à son pays. Je sais pas, hein, peut-être qu'il en a d'autres, mais.
Oui, non, non, c'est comme Trump.
Comme Trump, ouais, exactement.
C'est un peu plus compliqué que ça. Et que
Goldman Sachs, merci. Goldman Sachs. Merci.
Non, Trump aussi savait voir son intérêt dans l'intérêt des États-Unis, ça on l'a vu. Non, mais tu vois, ça c'est un argument qui plaide pour le fait qu'il est important que les hauts fonctionnaires et les politiques aient une rémunération suffisante pour les éloigner de la corruption.
Mais c'est combien une rémunération
suffisante, c'est une vraie question, je suis d'accord avec toi.
Parce qu'il y a toujours une rémunération de corruption qui
c'est
va être supplémentaire.
C'est toujours trop cher pour certains et pas assez pour d'autres, je suis d'accord. Je crois à les ministres, je crois à les députés qui me disent « je gagne moins aujourd'hui que ce que je gagnais dans le privé j'étais moins exposé, j'avais une vie tranquille. » Et maintenant, voilà, donc parce que je vois quelles peuvent être les rémunérations pour les cadres dirigeants d'entreprises, etc. Je vois aussi les députés qui disent que c'est beaucoup trop bien payé, par exemple Ruffin, qui dit « moi je veux être au SMIC pour être proche des Français ». Je comprends aussi la logique et l'argumentation, j'ai pas de problème avec ça. Mais je suis le premier à dire qu'il faut faire attention, à pas faire preuve de démagogie, parce que ça peut créer des effets de bord et des externalités très négatives.
Il n'a pas corrigé plusieurs millions dans son mariage. Ah oui, non, c'est que son épouse n'était pas fiscalisée au Royaume-Uni. Ouais. Notre ministre des Finances est devenu Premier ministre, devenu Prime Minister. Donc effectivement, ça, je crois que ce n'était pas non plus complètement clean. Bref.
C'est une indépendance indispensable et ça donne une exemplarité supplémentaire à avoir. Alors oui, par contre, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que le niveau de rémunération des députés doit aller avec des obligations de transparence, d'éthique et de respect. Donc oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'on introduit le salaire au mérite pour les élus? En fait, c'est un sujet intéressant parce que qui mesure le mérite et au nom de quoi?
C'est quoi tes indicateurs, quoi?
C'est quoi l'indicateur du mérite?
Comment tu mesures?
C'est comme les gens qui disent qu'il faut indexer la rémunération des députés sur le salaire minimum ou sur le salaire moyen des Français pour les inciter à augmenter le niveau de salaire des Français. Philosophiquement, ça dit que le rôle d'un député, c'est d'augmenter le salaire moyen des Français. C'est intéressant, ça. Est-ce qu'on peut en discuter deux minutes? Est-ce que c'est ça le rôle d'un député?
Collectivement, je trouve que le rôle d'un député et nos gouvernants en général, c'est de donner une... Ouais,
d'améliorer
pas...
les conditions de vie.
Oui.
Non mais moi, par exemple...
Du coup, augmenter le salaire, moi je suis complètement d'accord. Ah ouais.
Ok, non, je sais pas. Dans une entreprise, je suis d'accord. C'est qu'on crée des règles entre la rémunération des dirigeants et le niveau de salaire minimum ou moyen de l'entreprise et tout. Ça, d'un point de vue éthique, je suis d'accord. Pour l'État, est-ce que le rôle de l'État, c'est que les Français gagnent plus d'argent? Est-ce que c'est l'argent la mesure de la bonne politique?
C'est marrant parce que c'est pas le mérite, ou au moins forcer à travailler et à être présent.
Mais... Ça, je vous en ai déjà parlé, Je vous en ai déjà parlé. La présence dans l'hémicycle. Ne prenez pas ce que vous voyez dans l'hémicycle comme la photographie des députés qui travaillent par opposition à ceux qui travaillent pas.
En vrai, ils bossent. Ils font des grosses conneries et ils bossent pas bien parfois. Et ils font des trucs qu'on n'a pas envie qu'ils fassent. Et ils sont parfois nuls parce qu'ils sont humains. Mais je crois pas qu'on puisse dire qu'ils foutent rien. Il y a peut-être une minorité de mecs qui profitent parmi les députés et les sénateurs, mais pas tant que ça.
Pas tant que ça. Voire même, ils bossent beaucoup pour certains d'entre eux ou beaucoup d'entre eux, peut-être pas au même moment, à la même période. Mais là, par exemple, les députés de la commission des finances, là, en ce moment, ils dorment pas beaucoup. Alors peut-être qu'en mars prochain, ça ira un peu plus tranquillement. Oui, ils bosseront que sur une ou deux commissions d'enquête ou missions d'information. Mais là, on est dans la période budgétaire. Le député spécialiste de la thématique du transport, au moment où on sera sur la loi transport, t'inquiète que lui, il va carburer pendant ce moment-là. Donc voilà, vous voyez, c'est...
Et puis normalement, la mesure, c'est les Français qui la décident, enfin les indicateurs, et qui revotent ou qui ne revotent pas.
Et c'est ce que je vous disais. Alors il y a ça aussi. Alors il faut se méfier un peu avec cet argument, parce que c'est aussi ce que disait Balkany pour dire regardez, les gens votent pour moi. C'est bien que suis validé par le peuple et tout. Enfin, là,
ceci dit, il était validé par le peuple parce que les gens votaient pour lui, parce qu'il utilisait des techniques
et parce que
donner aux gens envie de revoter pour lui. Enfin, je veux dire, les cadeaux qui étaient faits.
Alors il y avait ça, mais surtout parce que ses électeurs se foutaient de ces magouilles.
Il s'en foutait parce que par ailleurs il bénéficiait
d'autres
choses. Alors
il y avait ça, il faisait une bonne politique, etc.
C'est pas qu'une bonne politique, je crois qu'il.
Au niveau local,
il y avait quand même beaucoup de clientélisme et de cadeaux.
Tu sais que moi, Balkany, mon père a vécu à Levallois pendant quelques années. Balkany, c'était un maire très impressionnant. Dans le genre bon maire, il était tous les samedis sur la place du marché, sans exception, et du début à la fin du marché. Il serrait les mains de tout le monde. Il était à tous les clubs de vieux. De Levallois. Il n'y avait pas une réunion de copropriété qui avait lieu sans que le maire soit là. Il venait personnellement partout. Tous les vieux de Levallois croisaient le maire au moins deux fois dans l'année minimum et lui serraient la main. Il avait toujours un petit mot et comment ça va et tout. En termes de proximité et de terrain, Balkany, c'était un maire intéressant.
C'est
par
drôle,
ailleurs,
c'est
il distribuait évidemment un iPad à Noël à tous les vieux, les boîtes de chocolat payées par la mairie, évidemment.
Mais c'est exactement ce que tu dis aussi.
Comme beaucoup de maires, non, je suis d'accord.
T'as dit, c'est un bon maire. Ben oui, mais qu'est-ce qu'un bon maire ? Et ça, on revient sur cette question-là. Parce que un bon maire, est-ce que c'est le maire qui est présent, qui est là quand t'as un bout de trottoir qui est pété devant ton commerce et qui vient et qui dit, bah oui, on va s'en occuper, on va faire venir la voirie, qui vient à tous les trucs, comme tu dis, les clubs de vieux, enfin, plein de trucs. C'est intéressant, c'est...
Non, je suis d'accord, c'est ça, c'est un maire présent. Est-ce que ça fait partie, je pense, d'un bon maire ? En tout cas, ses électeurs adoraient, c'est tout ce que je voulais dire.
Je sais pas si c'est bien, mais en tout cas, il faut être présent et c'est un sacerdoce. Hein. Franchement,
enfin, alors lui,
élu
il
local.
Ça. Lui, il adorait.
Oui, mais non, mais faut aimer. Mais élu local, ouais. C'était Arnaud Dangean, qui est aujourd'hui député européen, qui à l'époque voulait être député de Saône-et-Loire avant de devenir député européen. Et donc, il était dans les tuyaux du début de campagne et il a arrêté. Et tout le monde s'était interrogé pour dire mais pourquoi est-ce qu'il arrête cette campagne alors qu'il est vraiment bien parti pour être élu. Et il avait donné cette explication qui était mais en fait, moi, je ne peux pas passer mon dimanche, tout mon week-end, au mois de décembre, sur des routes verglacées, au fin fond de la Saône-et-Loire, pour le matin être à l'inauguration, enfin, c'était peut-être pas un dimanche, mais un samedi, à l'inauguration d'une crèche, ensuite aller danser avec des petits vieux dans un EHPAD, ensuite aller retrouver telle association, tel truc. Je ne me vois pas vivre comme ça, or, c'est ce que je vais faire quand je serai élu.
Ouais.
Entre autres.
Ah, mais c'est moi, j'en ai vu des députés, notamment des néo-députés qui débarquaient un peu au moment de Macron en 2017, etc. Déchantés au bout d'un an et demi, tu les ramassais à la petite cuillère avec les cernes, etc., qui disaient comment ça va ? Bah écoute, ma femme est en train de me quitter parce qu'elle ne me voit jamais, mes gamins me font la gueule parce qu'ils ne me voient jamais, j'ai plus un jour de libre, je me fais insulter matin, midi et soir sur Twitter, j'avais pas compris que c'était ça aussi, être politique. J'avais envie de leur dire, ouais, désolé, t'étais mal préparé parce que c'est ça, être politique. Et c'est dur. Et il faut aimer ça, il faut adorer ça. Et donc, effectivement, tiens, par exemple intéressant, j'ai bossé en mairie, les ponts du mois de mai. Vous savez, les ponts, là, c'est sympa, c'est l'occasion de faire un petit week-end en famille, etc. Vous croyez que les députés, les élus, ils font des ponts ? Ben non, ils font pas les ponts. Parce qu'il y a les commémorations à 8h du matin pour déposer la gerbe sur la tombe du soldat inconnu, sur machin, etc. C'est con, hein, mais tu pars pas en week-end. Voilà, la commémoration, il faut que tu y sois, c'est la moindre des choses, etc. Et tout est comme ça. Le samedi et le dimanche, vous croyez que les élus ils bossent moins ? Ah ben non, parce que le samedi, alors moi au niveau local, je m'en souviens très bien, le samedi et le dimanche, c'est le moment des kermesses, des rencontres sportives, des rencontres culturelles, des manifestations publiques, T'inquiète que ton samedi et ton dimanche, ton agenda est blindé. Parfois, t'as hâte que ce soit le lundi, pour reprendre des heures de bureau où ça calme un peu. Donc vraiment, hein, le samedi... Pour les élus locaux, c'est
on les plaint pas, ils l'ont choisi, non. Mais c'est quand même, faut bien avoir en tête que c'est pas si cool. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui dit, mais du coup, on retrouve pas toujours avec les mêmes profils psy de nos élus. Mais sans doute pas, parce que tout le monde y va pour des raisons différentes. Mais quand même, moi j'avais ma petite théorie,
si, oui,
qui est pas
aussi,
du tout.
Ouais, vas-y.
Alors attention, moment psychologie de comptoir. Hein. On est quand même vraiment sur du niveau, je pense, moins un hein, de la psychologie. Mais moi, je m'étais interrogée. À observer tous ces hommes politiques. Et en fait, j'avais l'impression que c'était toujours... il fallait toujours résoudre une faille.
Oui,
C'était pas que j'ai envie de faire du bien à la société, c'est quand même, il y a un truc en moi qui est pété, et je vais le reconquérir en ayant ou du pouvoir, ou de la notoriété, ou en me rendant utile.
Souvent une blessure narcissique, on peut le dire.
Oui, oui, oui. Donc, souvent, t'as été maltraité... Ben, je sais pas, t'as été le petit gros du premier rang,
binocle,
on t'en a mis plein la tête, et ben en fait, tu as envie de te ressaisir et tu retrouves un peu parfois du pouvoir et de la. Le franchement,
oui, je suis d'accord.
J'en ai vu un paquet comme
ah
ça,
ouais,
dont je sentais qu'ils avaient été vraiment maltraités à l'adolescence. Et qui du coup ont découvert le pouvoir que leur offrait la politique, où finalement, bah, en s'investissant, ils arrivaient tout de suite à avoir des postes assez intéressants. Et,
j'ai vu aussi du syndrome du Saint-Bernard, hein, beaucoup.
Ouais.
Des élus qui se donnent une mission sacrée d'être au chevet de leur territoire, des gens. Ils veulent soigner la société, ils veulent... réparer les gens, la société, etc. Et parfois, ça les amène dans des dépressions parce qu'ils se rendent compte que le monde est ainsi fait, que tu vas pouvoir faire des belles choses, mais que tu peux pas tout faire. Et... compliqué que ça, et c'est dur et tout. Et j'ai vu aussi d'ailleurs des gens qui n'allaient pas bien parce qu'ils se sont investis en politique, le cœur battant avec des idéaux de jeunes de 18 à 25 ans, etc. Et à l'âge de 35 ans, eux qui voulaient faire la révolution se retrouvent adjoints au maire chargé des poubelles et ils se rendent compte que, bah, en fait, leurs idéaux, ok, bon, et en fait, ils ne vont pas bien. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont sacrifié tellement sur l'autel de la Révolution que...
Bon. Puis encore, il y a ceux qui sont élus.
Je parle trop bas, pardon.
Et il y a ceux qui sont élus, puis il y a ceux qui sacrifient tout pour une élection qu'ils ratent pour...
Et ça,
parce
c'est
que
dur.
Parfois, juste, tu rates l'élection, puis parfois, tu rates l'élection pour les mauvaises raisons. Parce qu'au dernier moment, on a parachuté quelqu'un devant toi, que t'es plus soutenu par le parti, que... Enfin, voilà, il y a plein de raisons. Et ça, c'est très frustrant.
Bah, tu vois,
Mais oui, c'est très petite comptoir à nouveau, hein. Vous l'avez noté, on avait promis qu'on n'était pas,
pas
docteur en...
Mais tu vois, j'en parlais avec Julien Bayou, par exemple, au moment de la NUPES. Je lui demandais, alors ça va, etc. Et l'accord de la NUPES, c'est cool et tout. Il me disait, ouais, c'est cool. Mais faut se rendre compte d'une réalité pour un chef de parti comme Julien Bayou. Ça veut dire quoi, un accord électoral comme celui de la NUPES? Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire 300 coups de téléphone pour annoncer à des gens qui sont investis dans ton parti, qui y croyaient, mais qui ne seront pas candidats. Et ça, c'est dur. Il m'a dit, bah, en 4 jours, j'ai appelé 300 personnes, des militants dévoués, des gens extraordinaires, etc., pour leur annoncer que je suis désolé, mais dans ta circo, ce sera un candidat insoumis ou un candidat communiste ou un candidat. Et il m'a dit, c'est ça aussi le boulot.
J'ai une copine qui s'est retrouvée dans cette situation, qui a été appelée par Julien Bayou, et on lui a dit, on te débranche. La meuf, elle avait déménagé, elle avait vraiment changé sa vie pour ce projet. Alors certes, c'est jamais gagné une élection, hein, mais là, quand en plus t'es débranché avant même d'avoir pu te frotter au scrutin, puisque c'est ça que tu veux quand même, c'est aller rencontrer tes élus, enfin tes électeurs, pardon. Mon beau-père était député, maire et président de conseil général, il me disait qu'il gardait la députation en job alimentaire. C'est sa seule utilité au niveau local.
Ah, ça, c'est les députés-maires, oui. Ouais. Oui, il y en avait beaucoup qui faisaient ça. Débrancher, le terme est quand même horrible. Ah, c'est un terme qui est très fréquent. Là, ce qu'on vient de décrire, c'est exactement ce qu'on appelle débrancher.
C'est exactement ça. Ah, bah, elle l'a vécu vraiment comme ça. Hein.
Ah, bah oui, tu l'as débranché.
Elle a essayé de faire la campagne du coup du candidat qui a été choisi par la NUPES et qui n'était pas du coup vert.
Elle se donnait peut-être un peu moins.
Et bah elle s'est moins donnée, surtout quand il y a eu des désaccords profonds, puisque comme on l'a dit, il y avait des désaccords profonds de toute façon, et des désaccords profonds notamment sur le deuxième tour, quand on est en... Est-ce qu'on se retire ou pas en cas de triangulaire, par exemple. Et c'est la situation dans laquelle elle s'est retrouvée, où elle était là genre, bah bien sûr qu'on se retire. Sauf que la candidate qui a été choisie n'avait pas la même idée, donc il fallait faire des communiqués de presse pour dire oui, je soutiens, mais non, je soutiens pas. Mais si tu soutiens pas, ça va faire du mal nationalement, on peut pas montrer l'image d'une NUPES pas soudée. Enfin oui, mais moi, localement, je peux pas dire que je suis d'accord avec ce qu'elle est en train de faire. Donc c'est fou. Et donc là, ça l'a débranchée, et ça l'a débranchée sévère, parce qu'elle a même...
Elle a quitté le parti, je pense.
Ouais, elle a pas quitté le parti, mais elle a pris des très longues vacances. Je pense que... Bon, et ça reviendra peut-être, mais c'est dommage de se priver de gens qui sont...
Mais c'était pareil, je pense, à un moment qui a été dur à vivre pour les gens au niveau local. Hein, faut bien se rendre compte, c'était les élections municipales... les élections régionales dans le Nord, dans la région des Hauts-de-France, celle où a été élu Xavier Bertrand face au RN. La liste de gauche du conseil régional a dû se retirer au second tour pour laisser la place à Xavier Bertrand, au risque de se retrouver à un moment où la région basculait à l'extrême droite. C'était des gens qui avant étaient à l'exécutif, c'était des gens qui avaient des postes à la région, qui se battaient pour la région, c'était leur boulot, etc., ils y croyaient, etc., qui non seulement ont perdu l'élection, mais ont même perdu toute forme de siège au sein du conseil régional parce qu'ils ont retiré leur liste, donc il n'y avait aucun élu. Tu passes de « j'ai le pouvoir dans la région » à « je n'ai même plus un seul élu dans la région ». Et pour eux, ça a été d'une violence. Ça, c'est... Et pareil, c'est Paris qui les a appelés en leur disant bah, « vous retirez votre liste. Non, vous fusionnez pas, etc. » Enfin, idem en PACA, deux fois, ouais, t'as raison.
Absolument, ouais.
Et il y a des gens, il faut se rendre compte, pour des gens qui se battent parfois depuis 10 ans, qui sacrifient, on revient au côté sacerdotal de la mission, bah, c'est violent, quoi. C'est violent. Donc c'est intéressant aussi, parce que je crois qu'à Adèle et moi, on a la chance d'avoir travaillé auprès d'élus, qu'on les a vus humainement, physiquement, etc., et que ça nous apporte aussi ce point de vue. Moi, je disais toujours que c'est fou à quel point les élus sont des êtres humains. C'est-à-dire inspirants, médiocres, parfois les deux dans la même journée.
C'est très fou.
Non, mais voilà.
C'est beau.
Non, mais c'est vrai.
C'est beau, Jean.
Je reviens à ce que
j'ai envie qu'on fasse un quote comme ça et qu'on le mette sur. Sur Instagram. Je pense qu'on va faire un compte. C'est beau. Non, mais c'est vrai.
C'est, voilà, parfois dans la même personne, parfois dans la même journée, parfois dans le même parti, il y a tout, et bon, des fois t'as envie de leur mettre des gifles. D'ailleurs, c'est assez bien montré dans la série Parlement, qu'est-ce qu'il y a ?
C'est presque un haïku.
C'est presque un haïku,
ouais, oui. Je crois que c'est un haïku.
Dans la série Parlement, ouais. Tu vois ça.
Ah,
tu...
elle est si bien,
elle
cette série.
Elle est trop bien. Ouais. Le moment où vraiment le collaborateur il regarde sa députée en se disant oh, tu sais que c'est un immense plaisir pour moi de travailler avec toi, tu m'inspires et tout. Et 2 minutes après, elle fait un espèce de coup de pute d'une médiocrité politique, tactique nulle. Et il se dit oh, c'est sale. Voilà, dans la même journée, t'as été inspiré et dégoûté par la personne pour qui tu bosses. Ah, ça, moi, c'était tous les jours. Ouais. Tu sais, tu parlais des textos à 2h du matin, moi, quand je bossais pour la maire du 20e. Ça lui arrivait de faire des insomnies, qui en général consistaient à je prends mon iPad sur mes genoux dans mon lit et j'envoie un mail, et je traite mes mails, et donc ça partait en mail à chacun des conseillers thématiques, en hurlant, en gueulant, etc. On arrivait tous au bureau le matin, on ouvrait nos boîtes mail et on se disait « Elle a mal dormi, ça te plaît, d'accord ?» Ouais, ouais. Ok, tout va bien. On gère.
Ouais, ça, c'est...
je m'en occupe.
Elle avait pas les, tu sais, l'envoi différé ?
Non,
pour envoyer tous tes mails à 8h du matin.
Non, t'arrivais le matin, tu voyais un mail envoyé à 2h de la mère en personne, tu fais oula, elle a pas dormi, merde. Ouh, putain. Ouais. Effectivement, tu te prenais une balle. Mais tout le monde se prenait une balle, hein. Ça c'était assez vénère. Mais j'ai connu aussi des conseillers, tu vois, c'est là aussi que c'est intéressant d'être conseiller, notamment les conseillers les plus proches de l'élu pour qui on bosse ou du responsable politique, qui sont les rares personnes qui peuvent lui dire le fond de leur pensée. Genre maintenant tu la fermes, maintenant t'arrêtes. Ils ont aussi besoin d'un sparring partner et de collab qui leur disent tu déconnes à plein tube, donc en fait là tu vas prendre un week-end, je sais pas, tu vas baiser, tu vas tirer un coup, tu vas boire, j'en ai rien à foutre, mais en fait là t'es insupportable, on peut plus bosser, ouais. En fait il faut que tu décroches, là t'arrêtes. Et moi j'ai vu des engueulades comme ça entre l'élu et son directeur de cabinet, où le directeur de cabinet impose des vacances obligatoires en disant je veux plus t'entendre pendant 2 jours, là t'es insupportable. Et donc le maire qui dit comment tu me parles et tout, et puis 2 jours plus tard qui revient avec une boîte de chocolat en disant t'as eu raison, merci, heureusement que t'es là, je suis désolé de te faire subir ça et tout, non mais t'inquiète, faut que tu comprennes que voilà.
Mais l'entourage, ouais, t'as raison, l'entourage est vraiment très très important. Ouais. C'est marrant, on en parle un peu comme des stars qui ont besoin, tu vois. Je pensais à ça parce que quand tu vois le documentaire sur Aurel San et son entourage qui lui permet de garder la tête froide, ben en fait c'est un peu la même idée. Alors t'as la famille, hein, qui fait ça pour le cas des élus aussi, ou en tout cas des gouvernants, un peu. Et j'ai vu que certains dans le chat disaient qu'ils avaient des expériences d'être fils, neveu, petit-fils d'élus. C'est sûr, ça aide. Mais d'avoir dans ton cabinet des gens qui peuvent te dire des trucs. Je pense notamment à une anecdote qui n'était pas sur le mood, mais qui était sur un problème de tenue du ministre.
Comment il s'habille ?
Alors, il y avait un événement particulier et le ministre allait être filmé parce que... Oh là là, je ne sais pas si j'ai le droit de révéler des trucs comme ça. C'était Alain Juppé et il recevait Hillary Clinton.
Secrétaire d'État.
Voilà, c'était donc ministre des Affaires étrangères, recevait ministre des Affaires étrangères, donc secrétaire d'État américaine, et c'était filmé. Donc c'était un moment un peu important. Et là, on voit le ministre arriver. Il était dans un costume sable intégral et une chemise blanche. Oui, c'était au mois de juin, tu vois, il faisait un peu chaud. Et là, c'est vrai que comme il n'était pas ultra bronzé, il y avait un petit sujet de... On se doutait que c'était pas fou. On n'est pas là pour les mettre en valeur ou faire des trucs complètement fous, mais là, quand même, il y avait vraiment un sujet de... Ah ouais, non, ça... Trop de beige. Qui va voir Alain Juppé et lui dit « Monsieur le ministre ?»
Oui, c'est ça. Qui va lui dire ?«
Il faut se changer. » C'est, ah non, on dit pas le physique. Non, mais là, c'est une vraie question. On ne se moque pas du physique.
C'est drama politique.
C'est une vraie question.
T'as demain, tu peux avoir un article dans le New York Times qui dit faute de quart de la part du ministre français. Enfin, tu n'en sais rien. Tu sais
peux
pas.
Y avoir ça, mais tu surtout, tu te dis, à l'image, t'as les deux qui sont filmés. Si t'en as un qui est dans le décor, qu'on voit pas. Enfin, c'est con, mais c'est visuellement pas cool, quoi. Et du coup, ben, c'est le conseiller. Donc tout le monde se tournait le truc, le conseiller comme, repoussait, machin. Enfin, il y a eu des discussions, des petits conseillers à bulles, et c'est le conseiller politique qui était le conseiller le plus proche à ce moment-là, qui s'y est collé. Et je me souviens vraiment, tu sais, on était tous un peu à le voir partir derrière la porte. Et c'était assez drôle. Et donc, on a vu le ministre sortir, donc ça s'est quand même bien passé, avec un blazer bleu marine, ce qui rendait la chose très bien, et il a pu garder son pantalon beige. Tout était parfait, mais voilà, ça paraît un peu débile, mais...
Nous, à la mairie, on avait, dans un placard, la veste et la chemise de secours.
Oui, c'est Gilles Boyer qui allait, du coup. Vous avez deviné.
Bravo, Gilles.
Bravo. Enfin, bravo celui qui a deviné que c'était Gilles, et bravo, Gilles.
On avait, dans un placard, la chemise et la veste de secours, Parce que au moment où on bossait à la mairie, donc on n'avait pas tout le temps besoin de mettre une chemise et une veste. Quand on savait qu'on avait une réunion dans la journée un peu importante, etc., on le faisait, mais le reste du temps, bon, voilà, on bossait, on était habillé normalement, quoi. Mais on gardait quand même la veste et la chemise de secours parce qu'on ne sait jamais. Le moment où la mère t'appelle sur ton portable pour dire « Je dois recevoir l'ambassadeur de machin, mais je ne suis pas dispo, tu peux l'accueillir dans mon bureau, s'il te plaît ?» Et là, tu ne peux pas y aller en t-shirt. Et du coup, on avait une chemise et une veste qui étaient pendues dans un placard et qui tournaient entre tous les collègues masculins du cabinet. Donc, c'était vraiment... La chemise, elle puait depuis des années. C'était vraiment la chemise de secours de « Attends, bouge pas, elle allait à personne et tout, la veste. » Bonjour monsieur l'ambassadeur, enchaîner, Jean Massier, conseiller de la mer, installez-vous, discutons, elle arrive dans quelques instants et tout. C'est très intéressant, dis donc, je vais à Monténégro, je ne savais pas.
Elle est géniale cette histoire. Nous on était un peu différents, on avait chacun nos tenues, mais il faut avoir une tenue de rechange même quand tu es sapé dès le matin. Parce que moi je me souviens d'une
la
fois...
La tâche de café
où je... Non, moi je me suis pris une averse de retour de l'Assemblée nationale et c'était pas très loin pourtant. Mais il fallait que je remonte, toute la rue de Bourgogne, parce qu'à l'époque j'étais au ministère des Relations avec le Parlement, qui était rue de Varennes. C'est passionnant. Et un camion est passé. Et je me suis pris vraiment comme dans un film. Cette énorme flaque. Mais vraiment le moment du désespoir. Et je devais ensuite retourner au Sénat en séance. Et donc. Heureusement, j'avais une tenue de rechange, mais ça paraît débile. Mais
moi, j'avais l'adjointe pour qui je bossais aussi, qui me dit en urgence, Jean, viens dans mon bureau vite. J'arrive. Elle me dit, putain, j'ai une merde. Je dois aller à l'hôtel de ville d'ici 15 minutes. Enfin, je dois y aller là tout de suite pour accueillir. Je crois le président de la République, un truc comme ça, avec la mère, machin. Je viens d'éclater mon collant. Est-ce que tu peux filer au BHV pour m'en acheter un nouveau? Et moi, elle me donne sa carte bleue, tu sais. Et moi, je la regarde comme ça dans un grand moment de solitude. Et là, il y a la DIRCAB qui passe dans le couloir, donc qui était une nana qui regarde, fait tu vas pas demander ça à Jean, il ne connaît pas en collant, je vais le faire. Du coup, la DIRCAB qui prend la carte bleue, qui se bat en courant au BHV, en disant je te la porte dans le parking en bas de l'hôtel de ville, t'inquiète et tout, merci meuf, tu me sauves la vie. Et en courant avec le collant de rechange. Et moi, j'étais non, je t'avoue que là, le collant, je vais me retrouver au rayon collant, je sais pas quoi prendre. Enfin, même si tu me donnes la taille, je sais pas, tu veux quoi. Je suis capable de t'apporter des barésilles, hein. Je sais pas, j'y connais rien. Donc voilà, non, des trucs comme ça, des anecdotes comme ça, il y en a un milliard. Hein. Nombre de fois où je suis allé chercher le fils de la mère à la sortie de l'école parce qu'elle m'appelle, elle me dit je suis coincé sur le périph. Enfin, tu vois, je suis avec mon chauffeur, mais là, ça roule pas. Genre, s'il te plaît, va chercher le petit. Non, mais j'ai pas que ça à foutre, là, je suis en train de bosser. Non, mais s'il te plaît, tu lui files des crayons, il colorie dans mon bureau, il n'y a pas de problème. Il était trop mignon, le gamin, Sacha, des gros bisous à lui. Il était trop chou. Tiens, ça nous est arrivé aussi une fois, fête de la musique, parvis de la mairie, petit stand de crêpes, petit concert sur le budget de la mairie qu'on payait et tout. Donc on était là avec les élus, avec la maire, le conseiller du CAV, on en profite pour passer un moment un peu convivial et tout. Et le gamin de la maire est là, évidemment il est dans les jambes de tout le monde, etc. Et sa maman elle est en train de discuter avec tout le monde parce que c'est la maire, donc elle papote avec tout le monde. Et il y a un moment où le gamin il est à côté d'un collègue et moi. Et évidemment c'est un peu informel, mais on comprend qu'on est plus ou moins censé surveiller le gamin, quoi. Enfin c'est comme ça qu'il est là, quoi. Jusqu'au moment où on papote, et puis...
Oui, que ce soit formel dans ces cas-là, quand même.
Ben justement, c'est pas formalisé, c'est-à-dire qu'il y a un moment où un autre collègue, il y en a un, il fait « Il est avec vous, Sacha ?» Non, et en fait, on a perdu le gamin. Non, mais merde, putain, on a perdu le gosse. Ah, il est où ? On commence à courir, à fouiller partout, il faut pas que la mère s'en rende compte, parce que là, vraiment, elle va nous tuer. Même si elle nous a rien dit, mais bon, enfin bref. Et évidemment, on le retrouve, il était dans la fontaine, sur la place, en train de balancer de la flotte sur des gens, donc tout va bien.
Oui, un enfant sain.
Oui, un enfant sain, oui. On a failli perdre le gosse de la mère. Ah, mais qu'est-ce qu'il y en a des anecdotes comme ça ?
Ouais, on a... Ouais.
J'avais un copain qui bossait au conseil départemental de Seine-Maritime. C'était Laurent Fabius, le président, qui à l'époque était tellement président et tellement puissant, donc c'était l'époque des baronnies, tu sais, vraiment, il y en a encore, hein, mais des baronnies locales et tout. Il paraît que dans les services, Laurent Fabius, on l'appelait Dieu le Père. Pour te dire à quel point le mec était puissant, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un rond-point dans le département qui était décidé sans que lui personnellement ait jeté son. Enfin, c'est le niveau de baronnie du mec, ancien premier ministre, président du conseil départemental, évidemment à l'époque député aussi. Le niveau de puissance du bonhomme était incalculable, donc voilà, c'était longtemps le cas au PS, cette histoire-là. Et j'ai un pote qui bossait à son cabinet, et un jour, il faisait la commémoration sur les plages du débarquement, évidemment, Seine-Maritime, tout ça. Et il a un de ses collègues qui s'occupait des commémorations et qui était en lien avec les associations de déportés. Et le jour J, il est dans son bureau avec son collègue, et son collègue se lève de sa chaise, prend sa veste, commence à la mettre. Et mon pote lui dit « Tu fais quoi? Tu bouges ?» Et son collègue lui dit « Ouais, je vais chercher les déportés à la gare. » Il a fait comme mon pote, il bloque dessus, il fait « Écoutez ce que tu viens de dire. »
Tu vas chercher qui?
Et le mec, tu sais, en mettant son manteau, il fait « Ah ouais, putain, faire gaffe à ça. Je vais chercher les déporter à la gare. Mais vraiment, mec. Oui, mais non. Voilà.
Ouais, là, on nous a demandé quand même si on pouvait pas écrire une série. Non, mais c'est,
alors,
c'est déjà...
Mais t'en rigoles, mais j'en ai discuté avec le scénariste qui a écrit la série Parlement. Je lui ai dit que moi, à titre personnel, je rêvais d'une série premier degré qui raconte la vie quotidienne d'une collectivité locale de taille humaine, genre une petite ville ou ville moyenne, tu vois, et qui raconte tout ce qu'on est en train de vous raconter, de manière peut-être un peu humoristique parfois, mais de manière assez réelle, c'est-à-dire y compris ce côté humain dont je parlais, qui montre le maire, ses équipes, ses histoires politiques locales, bah, qui montre comment ça se passe. Donc des gens comme Adèle, moi et plein de potes, on pourrait écrire un nombre d'anecdotes dans un Google Doc, des trucs qui nous sont vraiment arrivés et qui pourraient donner des scènes entières dans la série. Moi, j'ai plein d'idées de scènes comme ça qui sont réelles parce que je les ai vécues. Et moi, je pense qu'une série comme ça pourrait ouais, être un peu drôle, mais aussi un peu sérieuse. Donc, moins sérieux que Baron Noir, plus sérieux que...
Peut-être le 10% de... C'était de
oui, 10%, c'est... Oui, voilà.
Le 10% de la vie politique.
Très bonne idée. Et en vrai, j'aimerais beaucoup qu'une série comme ça voit le jour, que les gens comprennent les enjeux, comment au niveau local tu peux avoir des guerres. Bah, regardez, t'as vu les révélations là sur la mairie de Saint-Étienne avec... quand ils ont caché une caméra pour que le premier adjoint soit filmé en train de coucher avec un homme.
Ah oui, bien sûr, oui, pardon, j'ai
le niveau sordide du piège pour une mairie, enfin un niveau local. Mais en fait, c'est ça, c'est aussi sérieux que ça le niveau local.
Bah, attends, il n'y a pas que les joueurs de foot qui font des trucs avec des caméras et des gens qui couchent avec des gens.
J'en fais des guerres, moi j'ai vu des guerres au niveau local pour être sûr d'être adjoint et d'être élu, machin. La BD Quai d'Orsay est une excellente BD qui raconte effectivement, et moi je vous ai déjà dit que comme j'ai été plume de ministre, tout ce qui s'est passé dans cette BD, je l'ai déjà vécu personnellement.
Ouais,
c'est vrai, cette BD est vraie.
Et l'auteur de la BD, d'ailleurs, est maintenant, maintenant fait des films.
Ah ouais,
ouais. Il a fait Le Chant du Loup.
Ah, c'est lui. Ah, mais oui, c'est vrai.
Tout à fait. Excellent. Il s'appelle Antonin Baudry. Mmh. Mais l'auteur de la BD, c'est Abel Lanzac. Il avait un...
Merci pour les 20 subs. Il y a Araken qui vient d'offrir 20 abonnements.
Trop cool.
Merci beaucoup. Eh ben, c'est super généreux de ta part. Merci. Eh ben, dis donc. Merci beaucoup, 80 euros.
Je crois qu'Araken, tu veux participer au livre et à la série aussi. On va peut-être pouvoir bosser tous ensemble.
Mais ouais.
Et donc ouais, il fait des films maintenant. Et il a d'ailleurs participé, il était co-scénariste sur le film Quai d'Orsay de Bertrand Tavernier.
Oui, le film, oui, bien sûr.
Et c'était assez drôle parce que c'était aussi mon patron et le patron de Rima Abdulmalak. Donc voilà, là, on saurait tout. Parce que c'était le conseiller culturel à New York, donc il faisait la promotion de la culture française au niveau des États-Unis, au moment où son film était en train d'être réalisé.
D'accord, ok.
Donc on suivait.
Faut qu'on le rencontre, faut qu'on lui pitch notre idée de série.
Ah non, mais carrément. Mais c'était très drôle parce qu'il n'avait pas de conseiller parlementaire, figure-toi, dans la BD. Et je lui en avais parlé, je lui avais dit, écoute, franchement, il manque le rôle de conseiller parlementaire. C'est quand même
le
bizarre.
Le jingle arrive.
Et bien, vous remarquerez que dans le film, il y a une conseillère parlementaire, jouée par Sonia Roland, d'ailleurs. Moi, je sais pas si c'est grâce à moi. Mais...
Mets le casque.
Je mets le casque ?
Ouais, tu mets le casque. Okay. Donc, il y a quelqu'un qui vient de donner 20 balles. Il y a quelqu'un qui vient d'offrir 20 abonnements. Donc, la tradition, c'est... Prépare-toi à danser... Merci beaucoup Araken.
Hop. Attends, mais c'est la tenue.
Mais oui.
C'est Juppé avec son blazer.
C'était ça.
Attends, mais du coup, on peut se lever et tout.
On peut se lever, on peut danser. Merci beaucoup pour les 20 subs Araken, merci beaucoup, c'est super généreux, merci. Merci à toi.
Je connaissais pas cette tradition, c'est formidable.
Ah, ça date du The Event.
Bah, je trouve ça top.
Et ouais, non, ça marche bien, avec le petit fillon qui danse et tout.
Surtout, il y avait Alain Juppé, j'étais élue, moi j'étais à la maison. Ah, c'est cool.
Ouais, il est trop bien ce jingle.
Ah ouais, je suis tout à fait pour cette tradition aussi.
Ouais, grave. Je sais plus ce qu'on disait avant de danser.
Je sais pas, on était genre vraiment en train de raconter des mémoires d'anciens combattants, tu vois, les vétérans relous. Oh, vous êtes hyper cool parce que vous êtes là, vous avez l'air de kiffer. Je sais pas si vous vous attendiez à ça aujourd'hui.
Vous êtes 3500, moi je suis trop content.
Je sais pas quelles étaient vos attentes.
D'ailleurs, je vous préviens, en ce qui me concerne, moi, je pars en vacances demain. Donc voilà. Donc merci. C'est tout. Je pars en week-end prolongé. Je reviens lundi ou mardi. Voilà. La fin d'instant parlementaire qui manquait dans le bouquin. Oui, c'est ça, le film qui a été rajouté dans le film.
Ouais.
Donc mais voilà, ouais, mémoire d'ancien combattant, collaborateur parlementaire, collaborateur d'élus. D'ailleurs, ce soir, je vais voir des collaborateurs parlementaires. Je vais leur parler de communication numérique et d'utilisation de leur chaîne YouTube de députés. Comment est-ce qu'un député... Tiens, d'ailleurs, c'est une question que je peux vous poser.
Eh ben, j'allais là... Incroyable, c'est fou. Non, mais enfin, je sais pas, on est un peu les ruquiers salamés, là.
T'es un honneur, avec plus d'humour, j'espère. Oui. Comment est-ce que, selon vous... Donc là, tout à l'heure, je vais voir des assistants parlementaires, des collaborateurs et collaboratrices parlementaires de députés pour essayer de leur donner des conseils sur comment... alimenter une hypothétique chaîne YouTube pour leurs députés. Comment est-ce qu'on fait vivre la communication politique d'un député sur une plateforme comme YouTube, en partant du principe qu'on parle plutôt de députés peu connus sur des chaînes qui ont très peu d'abonnés, puisque c'est des gens que voilà, on ne connaît pas beaucoup. Donc ça, c'est une question que je voulais vous poser. Selon vous, qu'est-ce qui vous donnerait vous envie de regarder les vidéos d'un député? Est-ce que c'est des sujets locaux, nationaux? Est-ce que c'est des formats courts? Est-ce que c'est des formats longs? Est-ce que c'est des interviews? Est-ce que c'est de l'humour? Est-ce qu'il faut que le montage soit parfait? Dites-moi un peu. Avoir un son de droite. Donc ça, je suis d'accord avec vous. Le son doit être parfait.
Faire des best-of de l'Assemblée.
Vlog plus vulga. Ok, des best-of.
Ouais. C'est à fond, là.
Anecdotes courtes.
Des formats backstage. Je croyais que c'était backseat, j'étais genre oui, non.
Non mais vlog, ça veut... ouais. Attention, on parle de vlog de député, c'est-à-dire qu'un député qui vous raconte que cette semaine il a eu une réunion de la commission machin pour discuter du rapport truc, vous regarderez ça. C'est une vraie question. Hein.
Pas d'humour par pitié.
Ok. Édito, FAQ, ouais FAQ, je suis d'accord. FAQ ça marche bien. Sur des textes précis, oui, ok.
Des vidéos vulgarisées, voilà, attends, vlog vulgarisé.
Vulga. Alors, vulga, c'est un métier. C'est pas sûr que les députés soient les meilleurs vulgarisateurs de la vie politique, mais je suis d'accord avec vous, le côté première main peut être intéressant. Interview sur l'actu de la semaine. Ouais, c'est un, en fait, le format vidéo de Jean-Luc Mélenchon n'est pas mauvais à la revue de la semaine, mais en même temps, c'est Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire, la revue de la semaine d'un député que vous connaissez peu, je suis pas sûr que vous passiez du temps à la regarder.
La revue de la semaine de Valérie Pécresse, elle a pas la même... présence, oui. Et aisance. Enfin, c'est ça aussi, c'est que est-ce que le média vidéo est vraiment pour tout le monde? Et est-ce que la chaîne du député doit mettre en scène le député? Est-ce que c'est... Ou est-ce qu'il doit mettre en scène ce que fait le député par l'œil du député? Non, c'est... Enfin, c'est
non, t'as raison, je réfléchis. Je pense quand même que c'est important d'avoir un face cam du député. Je suis d'accord avec vous quand vous dites proximité. Moi, il y a un truc que je ne conseillerais pas aux députés, c'est l'espèce de solennité nulle j'ai le dos droit, je suis face à la caméra, bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous parler du texte, machin. Non, je leur conseillerais plutôt d'essayer autant que possible, un peu comme Manon Aubry, ou d'être un peu humain, pas au point du ministre des Transports de Djebari, mais d'être dans une conversation naturelle. Alors, c'est facile à dire, hein, être naturel, mais ça aussi, c'est un métier. Devant une caméra tout seul, c'est pas facile d'être naturel, mais effectivement, je leur dirais, essayez de parler aux gens comme si vous preniez un café avec eux. Une série comme Macron, ouais...
Ah ouais? Une série comme Macron, parce que ça, c'est... Alors, le problème aussi, c'est que faut des moyens, faut un monteur.
Faut une caméra qui te suit tout le temps. Alors.
C'est quand même un.
Ça peut être le job d'un décollat, mais il y a autre chose à foutre. Hein. Faut faire du montage et tout. Ruffin fait ça bien. Alors la cuisine de Ruffin, c'est pas mal.
Ouais. Parce que j'ai... Oui.
C'est pas mal, c'est un petit décor, mais qui en même temps est pas mal, il lui ressemble bien, c'est adapté, c'est bien. C'est important que l'environnement soit lié aux députés. Par exemple, à l'époque où Philippot faisait un faux truc, enfin un truc où il se la jouait jeune, tu sais, il y avait une figurine de Mario derrière lui et tout. Ça jurait à fond, le mec était en costume cravate devant un Mario en peluche, j'étais en mode mec, non, en fait là tu trompes personne, enfin ça se voit que c'est pas toi. Par exemple, moi je pense que les députés pourraient se filmer chez eux. Un truc chaleureux dans leur salon, sur leur canapé. Pas au bureau, il n'y a rien de plus froid qu'un bureau de député, c'est pas très intéressant. Pas de mise en scène flagrante, du naturel. Ouais, c'est pour ça que je parle du canapé. Il y a un côté, on prend un café et je te parle.
Mais effectivement, il faut aussi qu'ils pensent à avoir des formats hyper simples. Faut pas que ce soit des trucs qui nécessitent un montage, parce que, alors à nouveau, le temps que tu prends pour dire ce que tu fais, c'est du temps que tu ne fais pas. Enfin, pardon, mais la communication, c'est quand même, ça prend du temps. Voilà, donc oui. Je pense qu'il faut trouver un format vraiment simple où ils te parlent.
Oui, donc soit c'est un militant qui leur fait leur montage s'il sait le faire. Un collab, on avait autre chose à foutre. Encore que.
Non, ça peut être un collab, ou alors ça peut être le collab qui raconte aussi.
Faire simple, je suis assez d'accord. Moi, ce que je vais leur dire, cherchez pas à faire des jingles, des génériques, ouais, des trucs compliqués. Non, je vais leur dire, faites simple, répondez aux commentaires. Faites des vidéos FAQ en mode je réponds à vos commentaires. Alors évidemment, ils en auront très peu au début. On parle de chaînes qui commencent à 30 abonnés.
En fumant des clopes. Alors, apparemment, tu dois conseiller.
Tu déconnes, mais des clopes. Moi, je suis à deux doigts d'être assez d'accord avec l'idée. Hein.
Non, bah...
Alors, il vaut mieux éviter, mais le naturel, c'est aussi fumer une cigarette et parler un peu franchement comme quand on fume une clope, quoi.
Super exemple, Alexis Le Rossignol, ouais, qui fait des vidéos en se baladant ou en vélo ou à pied, notamment dans les endroits dans lesquels il joue quand il est en tournée. Donc, c'est pas forcément...
Non, mais
C'est pas simple en même temps d'expliquer à un député qui va, ou un sénateur qui va se balader le long du jardin du Luxembourg en racontant ce qu'il a fait aujourd'hui ou ce qu'il
fera. Non, mais j'aime bien le côté simple et vrai.
Mais,
oui, je suis d'accord avec
toi. Mais je pense que ça peut être facile, ça.
Le côté sincère aussi, de par exemple que le député commence sa vidéo en disant comment il se sent. Mais sincèrement, c'est-à-dire là, je suis claqué, je suis fatigué. Ou à l'inverse, franchement, cette semaine, je suis trop content parce que j'ai fait ça ou parce qu'il va se passer ça, donc c'est cool, ça met de l'ambiance dans toute l'équipe, dans le parti, dans politiquement, etc. Mais que les députés n'hésitent pas à être sincères sur... En ce moment, ça tire un peu, là, je suis très fatigué, l'ambiance est lourde à l'Assemblée, mais je voulais quand même vous parler de... Enfin, bon.
Je vais regarder Antoine Léaumont, parce que vous l'avez cité à plusieurs reprises.
C'est le communicant numérique de Jean-Luc Mélenchon qui est devenu député. Donc
Antoine Léaumont. Oui, mais je n'ai pas vu ses stories. Je ne sais pas comment...
Et il fait des stories...
Je ne les suis pas régulièrement.
D'insoumis, quoi. Je déconne, Antoine, des bisous. Mais c'est vrai que c'est bien, les stories d'Antoine Léaumont. Moi, j'aime beaucoup ce que fait Manon Aubry au Parlement européen. Elle a un flow... elle a vraiment un côté AOC. Mais d'ailleurs, je lui ai dit, Manon, continue à... Le côté AOC, ça marche bien aussi avec toi. Parce que t'es une jeune nana chouette, souriante et tout. Et, ça, et du coup, le flow est cool. Donc elle arrive derrière son bureau, c'est avec sa chaise qui roule. Elle fait « Salut à tous !» J'espère que ça roule cette semaine. Au Parlement, on se bat comme des chiens sur tel sujet et tout. Donc ouais.
Et même si c'est pas de la vulga, il faut quand même qu'il fasse attention à ce que ça soit pas trop de la cuisine interne. Donc faut faire attention... à expliquer ce qu'on fait.
C'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui a dit les débriefs des débats à l'Assemblée, il faut que le débrief soit très bien fait. Parce que s'il s'agit de dire mon amendement, machin et tout, pourquoi pas, mais il faut politiser le propos et pas en faire de la cuisine. Enfin, voilà.
Pas de blague, pas d'humour, ça revient quand même...
Pas de blague.
À plusieurs reprises.
On peut être souriant quand même. Enfin, je veux dire, encore une fois, la blague est pas... On peut faire un peu d'ironie, on peut faire un peu de... Enfin, on peut être avenant, quoi.
Ouais, mais je pense que, tu sais, parfois, certains essayent trop de faire...
Ouais, pas de cringe. Non, mais je suis d'accord avec vous. Oui, pas de cringe. Oui, d'accord. Pas de cringe. Pas forcé. Oui, non, je suis d'accord avec vous. Moi, je suis d'accord. Pas d'humour forcé. Pas de blague forcée. Ok, non, ça va. J'ai compris. Je leur dirai.
Le chat est très...
Si vous faites des blagues forcées, vous allez vous faire fumer.
Oui, parce que t'as des gens qui font des blagues naturellement. T'as plein d'hommes politiques qui sont très très drôles et qui le feront naturellement. Donc faut que, à nouveau, c'est tout ce que tu disais.
D'ailleurs, d'une manière générale, je vais leur dire adaptez-vous à votre député. C'est-à-dire, si votre député est quelqu'un qui est très fort quand il a un ton professoral posé et qu'il explique bien, bah faites du Jean-Luc Mélenchon, le côté vieux prof d'histoire qui te raconte la politique, c'est très bien. Si votre politique est quelqu'un de jeune, dynamique, sympa et souriant, bah, n'hésitez pas à aller chercher des contenus. Mais voilà, ne lui faites pas faire ce qu'il ne sait pas faire et ce qu'il ne veut pas être. Voilà, c'est le plus important, je pense. On est tous capables d'accepter un contenu un peu chiant si c'est juste un mec passionnant qui parle et qui parle bien. Puis on regarde tous des conférences sur Internet d'astrophysiciens, bah, c'est passionnant à suivre. On n'attend pas d'eux qu'ils fassent des blagues.
Ouais, tu vois, Étienne Klein, il est pas hyper gaulerie. Et pour pas, un vrai, peu si, parfois. Très, très en fait, en vrai, il est quand même assez rigolo. Mais on a envie de l'écouter.
Mais oui, voilà, c'est ça. Jean-Luc Mélenchon fait pas beaucoup de blagues. Il fait de l'ironie.
Ouais.
Mais l'ironie, c'est... Alors, tu sais, toi, t'es comme moi, t'as connu... Enfin, l'humour politique, j'adore cet humour. C'est un humour cynique, pincant, pince sans rire, même souvent... C'est souvent très 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 drôle. Moi j'aime beaucoup l'humour politique.
Mais c'est assez drôle d'ailleurs, il faut suivre le prix de l'humour politique tous les ans, parce qu'il y a la petite phrase qui gagne, et puis il y a toutes celles qui sont nominées. Mmh. Donc c'est assez rigolo à suivre. Mmh. Mais ça se voit beaucoup dans les débats. Il faut passer du temps à écouter les débats, parce que c'est là où ils font les blagues. Les questions d'actualité, pas trop. parce que c'est filmé, c'est contraint, ils essayent, mais c'est un peu plus... ça peut arriver, hein.
Oui,
mais,
oui, ça peut arriver, il y en a qui sont assez bons. Mais le mieux, c'est si vous avez l'occasion un jour, c'est de voir les députés en off, autour d'un café, d'une bière ou d'un restaurant ou d'une cigarette. Là, ils te lâchent des punchs, mais c'est à mourir de rire. Enfin, c'est... Ou pas que les députés, attention, les hauts fonctionnaires, les fonctionnaires aussi, les collaborateurs. C'était nous, les blagues au cabinet, c'était...
Oui, il y a ceux qui les lancent dans les médias, comme Raffarin. Ouais.
Oui, Raffarin.
Oui, le chat.
C'est vrai. Ils s'envoient des fions sous couvert d'humour à l'Assemblée. Oui, oui. Oh non, parfois, c'est exceptionnel. Hein. Là, je t'avais raconté, j'avais rencontré... j'avais fait un plateau radio avec Caroline Fiat et Julien Aubert. Donc, Julien Aubert, misogyne, mec de droite, tendance un peu conservatrice. Caroline Fiat, vous la connaissez, aide-soignante, insoumise. Et ils se charriaient gentiment en se tutoyant, parce que les députés se tutoient beaucoup en off, et à l'extérieur du plateau radio, en fumant une cigarette avec eux, on rigolait, on blaguait et tout. Et Julien Aubert s'était fait remarquer à l'Assemblée parce qu'il refuse de dire madame, à l'époque il était député et maintenant il l'est plus, il refusait de dire madame la présidente ou madame la ministre, il disait madame le président ou madame le ministre. C'était devenu un peu sa marque de fabrique et ça énervait beaucoup les gens. Et Caroline Fiat le chambre en lui disant putain, tu pourrais m'appeler madame la députée, ça t'arracherait pas la gueule. Et Julien Aubert lui répond eh ben écoute, quand tu seras président, je m'engage à t'appeler madame la présidente. C'est marrant, tu vois. C'est... voilà. Communiste, pas insoumise. Caroline Fiat ? Ben si. Caroline Fiat, elle est fille. Donc voilà, vite fait drôle. Ben non, mais ils rigolaient tous les deux. Non, mais je vous raconte un échange comme ça, au pied levé, entre deux députés qui se charriaient et qui rigolaient, quoi.
Et même s'ils ne sont pas du même avis ou du même bord politique, ils peuvent avoir beaucoup de respect. Parfois plus de respect que pour ceux qui sont dans leur propre bord politique, mais ça dépend. Mais donc du coup, c'est assez chouette quand on a la chance de les voir en dehors.
Oui, c'est Barbara Pompili qui lui avait répondu « Monsieur la députée ». Monsieur la députée. Oui, oui, mais t'as raison, Jean-Luc Mélenchon et Serge Dassault, c'est une amitié connue. Jean-Luc Mélenchon et Serge Dassault s'adoraient. Ils s'adoraient pas, ils avaient du respect,
ouais,
beaucoup
du respect.
L'un pour l'autre, ils s'entendaient bien.
Ces mecs qui se fréquentent depuis des années, qui croisent les mêmes hémicycles, etc., qui ont des débats parfois de fond.
Oui, ils étaient au Sénat tous les deux.
Alors c'est vrai aussi, ça c'est une petite différence, c'est, ben, toi tu connais aussi très très bien le Sénat, c'est qu'au Sénat, il y a quand même moins de...
Oui.
D'opposition immédiate, enfin, il y a évidemment d'opposition politique, mais c'est moins politicien, dit-on. Parce que il y a quand même pas le Sénat, c'est la chambre haute, c'est la chambre qui prend le temps, c'est la chambre qui discute, qui débat, qui
le
analyse.
Sénat a une culture de travail qui va beaucoup plus aller vers la discussion intergroupe et interparti pour trouver des compromis, etc. Beaucoup beaucoup plus. Et je vous expliquerai un jour parce que c'est lié au fait qu'ils ne peuvent pas avoir le dernier mot et que du coup ça les force un peu à bosser plus intelligemment. Mais effectivement le Sénat cherche volontairement à décloisonner pour fabriquer. Une manière de faire de la politique un peu différente de l'Assemblée, ce qui est une partie de l'utilité du Sénat. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Mais il y a aussi Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour ont été proches à une époque, c'était à l'époque où Éric Zemmour était encore un polémiste de plateau chez Ruquier dans les années 2000 jusqu'à 2012-2013, où Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour se rencontraient, discutaient, échangeaient, ils étaient d'accord sur rien, mais ils se respectaient mutuellement. Jean-Luc Mélenchon était présent aux 50 ans d'Éric Zemmour.
Éric Zemmour, globalement, avait quand même fréquenté plus de gens avant de se lancer en politique.
Avant Sarah Knafeau,
ouais.
Qui a réduit son cercle,
ouais. Et oui, c'est aussi parce que le Sénat est moins médiatisé, évidemment. Enfin, c'est vrai que. Enfin, il l'est moins. Il l'était moins. Mais Jean Massier lui a redonné de sa superbe.
Par le
maintenant,
passé,
maintenant,
ouais. Non, il va retomber dans les limbes.
Mais même pas par le passé, tu continues de parler des sénateurs. Tu les
oui,
as
oui,
pas
oui,
oubliés.
Mais je fais plus mon émission hebdo, quoi.
Tu fais plus ton émission hebdo, mais
il y a des sénateurs qui m'ont dit on est très triste, que l'émission n'ait plus lieu, t'es chiant, on voulait que ça continue et tout. Désolé, ça continuera pas. Est-ce qu'il y a des gens qui respectent Macron ? Oui. Oui, bien sûr, évidemment.
Il y a même des gens qui sont subjugués par Macron.
Et ça c'est le magnétisme de Macron.
Ceux qui le respectent. Oui, c'est beaucoup de gens disent ça.
Ah, ouais, ouais.
Ceux qui le rencontrent en vrai te disent ah,
ouais. Tu sors de son bureau, t'es en mode
il m'a retourné.
Et c'est pour ça, quand il était ministre de l'économie, tous les jours il recevait matin, midi et soir tout le Gotha parisien. Dans son bureau, il subjuguait tout le monde. Pourquoi il s'est arrêté l'émission ? Parce que j'ai voulu me consacrer sur d'autres projets, notamment Brexit. Et voilà. Et puis que Public Sénat aussi, ils ont changé leurs priorités. Et voilà.
Pour Macron, il suffit de lire les livres de Bruno Le Maire. C'est vrai. avec ce regard bleu de la surface d'un lac et de la froideur de je sais pas quoi. Enfin, je me souviens, j'aurais aimé la prendre par cœur. Je l'avais apprise par cœur et je l'ai oubliée.
Mais c'était.
Mais oui, cette citation incroyable, entre autres.
C'était Bachelot qui avait parlé sur un plateau télé de sa rencontre avec Sarkozy et qui avait décrit cette rencontre comme un orgasme, genre vraiment.
Mais parce que Sarkozy provoquait ça aussi chez les gens. Hein, c'est vraiment, c'est un truc, ils ont beaucoup de choses en commun et ça, en fait.
Il a mis sa main sur ma cuisse et là, on était assis côte à côte, à je sais plus quoi, il a mis sa main sur ma cuisse et là, je me suis senti empli. Un truc, une lumière intérieure et tout. Et tu lisais le truc, t'étais en mode Roselyne. Et voilà.
Mais Roselyne, elle aime bien. Ah, mais alors, elle aime bien faire des blagues et encore toutes celles qu'elle faisait pas publiquement.
Oui, c'est ça. On peut dire que Roselyne aime bien le sexe aussi.
Franchement, Roselyne aime beaucoup. Alors, je sais pas, je connais pas sa pratique, mais Roselyne aime parler du sexe.
Elle aime parler du sexe. Elle a eu l'occasion dans des interviews d'en parler. D'ailleurs, c'était très intéressant.
Et puis, elle était chroniqueuse télé, hein, quand même. On oublie avant qu'elle redevienne ministre, mais c'était. Et elle en parlait.
Il y avait cette fameuse interview quand elle était ministre des Sports au moment où la France était en finale de la Coupe du Monde de rugby. Sur le plateau du grand journal de Canal+, Madame la ministre, qu'est-ce que vous aimez dans le rugby? Et elle répond, moi ce que je préfère c'est les vestiaires. Oui, d'accord.
Excellent match.
Voilà, et tu te souviens de la boîte à questions à l'époque, je sais pas si ça existe toujours d'ailleurs, sur Canal+, la boîte à questions, slip ou caleçon, elle a répondu cash et sans rigoler, peu importe, l'important c'est qu'il l'enlève. Merci Madame la Ministre, c'est fou.
Ouais, elle a toujours
eu cette humeur. Elle est extraordinaire, Bachelot. Hein. Enfin, un point commun avec Bachelot. Ah non, mais alors tu vois, typiquement, d'ailleurs je peux te poser la question, avec quelle politique tu aimerais, tu sais, la fameuse question dîner ou partir en vacances ou boire un verre, moi Bachelot, j'en suis certain, enfin Bachelot c'est une femme passionnante.
Ah oui.
Boire des coups avec Bachelot.
Et puis tu te poiles.
Ah, tu rigoles.
Tu te marres, ça
tu
c'est...
Tu rigoles beaucoup.
Non, non, elle serait Ken Seul en 2022. Oui, mais là on parle d'aller dîner, pas des expressions.
Non, je sais pas, t'irais boire des coups avec qui, toi?
Aujourd'hui?
Oh, dans les anciens aussi, t'as le droit.
Non, parce que moi j'ai déjà bu des coups avec,
oui, c'est vrai.
Avec certains, attends, du coup je cherche. Non, mais du coup je suis pas du tout objective, mais par exemple tu peux passer une très très bonne soirée avec Rima.
Abdelmalak ?
Ouais. Ah, pour le coup, elle est vraiment passionnante. Enfin, elle a vécu au Liban jusqu'à ses 10 ans, elle a déménagé à Lyon à 10 ans, elle te raconte tout son parcours, tout ce qu'elle a raconté avec Clown sans frontières. Enfin, tu t'ennuies pas.
Ouais, non, je viens de croire.
En mode gaulerie.
En mode gaulerie, François Hollande.
Je sais pas.
Il paraît qu'on est quand même sur un mec d'un niveau de blague et de toute la table est hilar du début à la fin, qui te raconte des anecdotes et tout, il paraît qu'on est sur un niveau assez énorme.
En mode Gaulerie, Édouard Philippe. Hein.
Édouard Philippe, ouais. Alors moi, pas que Gaulerie, parce que Édouard Philippe, j'ai aussi envie de le cuisiner pour qu'il me parle, parce que j'ai beaucoup de questions que j'ai envie de lui poser, de vraies curiosités. Nicolas Sarkozy, pareil. Hein. Moi, je rêve de dîner avec Nicolas Sarkozy et de le faire parler. Alors le dîner va durer 7 ou 8 heures, hein, parce que moi, beaucoup de trucs sur lesquels j'ai envie de revenir avec Sarkozy, sur son exercice du pouvoir et tout. Donc ça, c'est plutôt les cafés, les dîners en mode philo, mais...
Borloo, La Salle, ma mère, vous avez...
Oui, alors pour picoler, oui, alors effectivement, on va aller chercher du Borloo, oui, d'accord, j'ai la blague. Pas de King Shane, mais quand même. Bah non, mais d'un point de vue intellectuel, je suis désolé, un ancien président de la République qui a présidé à un moment aussi crucial que ces années-là, j'ai beaucoup de questions à lui poser.
Raffarin, ouais. Je vous invite à le faire, effectivement. Ouais. Raffarin, c'est assez rigolo. Gérard Larcher, c'est sympa aussi, ouais. Tu te marres bien.
Larcher, oui. Larcher. Ouais. Je l'ai interviewé et j'ai discuté en off avec lui. C'est un homme délicieux, enfin, souriant, sympathique.
Méluche aussi, mais moi, je sais pas, j'aurais un petit peu plus peur.
Mélenchon.
Peut-être pas forcément de. Je sais pas si c'est de la poilade, quoi.
Non, je pense pas que ce soit la grosse poilade. Par contre, j'ai envie de le faire parler. J'ai envie de le faire revenir sur toute une histoire du PS, de
ah, ouais, non, mais bien sûr. Ah ben non, mais ouais. Si on est dans le
mais
dans
non, c'est pas la
ou l'exploration,
c'est
mais Bayou.
Philippe Poutou. Alors Philippe Poutou, moi je l'ai vu. J'ai bu un coup rapidement avec lui après l'émission sur Backseat. Il est tout à fait sympathique, mais il est pas. Il est très réservé. Il est un peu discret. Philippe Poutou, quand il te connaît pas, il va pas rentrer dans la complicité immédiatement, même avec un verre de vin rouge dans la main, quoi.
Alors que Besancenot, je pense que c'est plus facile.
Oui, Besancenot, je le vois beaucoup plus.
Ça doit être plus simple. Enfin, il a l'air plus. Et toi, non, attends, qui d'autre? On n'a pas cité beaucoup de meufs là. Hein.
Roselyne Bachelot.
Qui t'a envie, de, qui t'a envie d'aller boire des coups?
Michel le mari. Je me tiendrai droit et je mangerai mon colin d'Alaska en silence.
Faut que tu le fasses avec Michel Agnew-Marie et Patrick Ollier, son époux.
Son époux, oui, non, non, les
parce
deux.
Que c'est...
Qu'on embrasse, hein, Michel et Patrick, mais... Désolé.
Tu peux rigoler un peu quand même. Non, non, si, si. Oui, Patrick Ollier, il est assez rigolo.
Un humour très fin.
Ouais, je connais moins Michel Agnew-Marie.
Manon Aubry, oui. Non, non, mais si on commence à faire les jeunes, oui, évidemment. Moi, j'ai envie de me peinter la gueule, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Avec Hugo Bernalicis, avec Sandrine Rousseau, avec... oui, oui. Évidemment, très sympa, mais...
Taubira, oui. Alors, évidemment, c'est non, non, mais c'est pas la franche rigolade. Mais en revanche, si t'as envie de, enfin, d'apprendre des citations d'Aimé Césaire ou de, ou des deux, non, mais même, elle est d'une culture,
ah, oui,
c'est
oui. Littéraire et philo, c'est et vraiment, poésie. Oui, oui, non, je suis d'accord. Benoît Hamon, ouais.
Rachida Dati. C'est vrai que non, ceci mais... dit, tu dois quand même bien te poêler une soirée avec Rachida.
Ah, Dati, elle doit te lâcher des trucs.
Ouais,
elle doit te lâcher des trucs.
Ben,
non, non, je la vois effectivement volontiers rigolote.
Cécile Duflo, ouais, ça, je pense qu'on peut confirmer.
C'est très sympa.
On peut confirmer qu'avec en off après l'interview d'Obexit, vraiment très très cool.
Vraiment très très cool. Cécile Duflo, extrêmement cool. Roger Carucci.
Ouais.
Ah, Roger Carucci, moi je l'ai observé rapidement à l'époque où il était encore un peu dans le bain de l'actu nationale. Il a l'air d'être quelqu'un de particulièrement sympathique, drôle.
Non, il est très très rigolo. Il est très exigeant avec ses équipes, en revanche,
ah.
Et un petit peu colérique. Mais
Roger, on t'embrasse.
Enfin, en tout cas, à l'époque, peut-être que c'est beaucoup moins le cas, mais il est très très drôle.
Non, non, mais j'irai pas boire des coups avec Marisol Touré non plus. Hein, je...
Tu vois, par exemple, Benoît Hamon, il est cool, mais il est pas fandard de ouf.
Ouais, je sais pas. Non, t'as raison.
Pas.
Non, t'as raison.
Si,
spontanément,
sais rien,
non.
Mais c'est pas.
Spontanément, non. Daniel Obono est très sympa. Et très marrante. Oui, Daniel Obono est très sympa.
Philippe De Villiers. Je sais pas si tu te marres. Peut-être tu te moques de lui, mais je sais pas si. Il y avait aussi Fleur Pellerin qui a été citée. Et ouais, elle est.
Fleur, ouais. Fleur Pellerin.
Elle est très rigolote.
Axel Lemaire aussi, à l'époque, que j'avais connu. Très, très sympa, Axel Lemaire.
Bon, finalement, on a envie d'aller boire des coups avec tout le monde, quoi. Presque. Quasi. Non, parce qu'attends, c'était quoi les répartitions? Avec qui on boit des coups? Avec qui on fait un
dîner? Avec qui on fait un dîner philo?
On fait un dîner philo?
Non, ouais. Mais au demeurant, j'ai un copain qui était dans une rédaction nationale à Paris, à la télé, journaliste, qui était chargé du suivi de l'extrême droite, et plus spécifiquement de la campagne de Marine Le Pen, qui m'expliquait qu'il déjeunait à peu près une fois par mois avec Marine Le Pen pour le boulot, et que c'était absolument fascinant d'être tête à tête dans un restaurant avec Marine Le Pen et de discuter. Et il me disait aussi qu'il allait souvent voir Jean-Marie Le Pen, qui me disait c'est extraordinaire d'un point de vue journalistique, d'analyse de l'actualité politique, d'avoir accès à un Jean-Marie Le Pen qui te parle, c'est un moulin à parole Jean-Marie Le Pen, hein, il te raconte l'histoire, il te raconte les années Chirac, les années Pasqua, etc. Il te raconte des trucs qui te permettent de comprendre énormément de choses de l'histoire, et c'est dans cette même idée-là que moi j'ai envie de bouffer avec Sarkozy, c'est-à-dire en tant que journaliste, tu vois, pour comprendre, faire parler, raconter, comprendre de la première source d'information, comment ils ont vécu les choses, comment ils l'ont vu, etc. Il te raconte son histoire, oui, évidemment, bien sûr, il te raconte son histoire, mais c'est celle que tu veux, c'est pour ça que tu déjeunes avec lui.
Trop de gentillesse, passer aux saloperies. c'était pas le principe du jeu. C'était avec qui ne veux-tu surtout pas dîner.
Ouais.
Non, et je crois en plus que Marine Le Pen est plutôt rigolote. Si,
il paraît.
Bah, elle est rigolote,
j'ai du mal à
comme Nadine Morano est rigolote, tu vois.
Ouais, j'ai du mal à me fondre la gueule avec Marine Le Pen. Ouais,
mais
tu sais, c'est exactement de la même manière
que
les gens qui... moi, j'en discutais avec des assistants parlementaires et des députés à l'Assemblée nationale qui me disaient les députés RN et leurs collaborateurs sont très sympas, très avenants et très très pros. Et il y a des députés qui m'ont dit en fait ce qui nous fait peur avec le RN, c'est le niveau de préparation qu'ils ont à l'exercice du pouvoir. T'as toute une génération jeunes mecs en costume cravate qui ont tous les études de droit, qui ont tous poncé la prépa ENA, tout ce que tu veux, INET, tout ce que tu veux, qui sont là collaborateurs d'élus, les mecs sont bons, ils bossent, ils ont de la méthode, ils avancent. Ils savent ce qu'ils veulent et ils sont smart, quoi. Et c'est pas le cas dans tous les groupes politiques où t'as quelques tirs au flanc et quelques gens qui sont pas au niveau, quoi. Et ils m'ont dit, putain, ça fait peur quand tu les vois, leurs amendements, leurs argumentaires, leurs communiqués de presse et tout, les mecs.
Mais ça m'interpelle. Je me demande qui Qu'est-ce qui les motive à ce point-là? Parce que est-ce que c'est la possibilité d'exercer le pouvoir? Parce que maintenant, ça semble possible. Parce qu'avant, c'était un petit peu... Personne ne veut de moi dans aucun parti. Et de toute façon, avant que j'arrive à un niveau suffisant pour avoir du pouvoir, enfin en tout cas l'exercer, ça va me prendre des années. Alors que bon, dans un plus petit parti, je vais pouvoir grimper plus vite si je suis un peu bien câblé. C'est vrai qu'il y avait quand même des raisons d'opportunisme aussi comme ça.
Bien sûr.
Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ça qui les motive encore plus?
Je ne sais pas si c'est la possibilité de l'exercice du pouvoir comme tu pouvais avoir la génération 80, etc.
Super, pas du tout envie de pleurer après ce que tu viens de dire. Le chat, c'est flippant, on est d'accord.
En termes d'analyse de l'extrême droite aujourd'hui en Europe et particulièrement en France, ne faisons pas l'erreur de prendre l'extrême droite pour ce que c'était à l'époque des années 80-90 sous Jean-Marie Le Pen. C'est pas une bande de gros bœufs avinés racistes. C'est plus compliqué que ça. C'est toujours des racistes. Mais on a affaire à une nouvelle génération avec Marion Maréchal Le Pen, avec son école de formation des élites de l'extrême droite et tout. Les mecs, ils ont des dialogues culturels inter-européens avec tous les partis ou avec les États-Unis où ils font des échanges avec les Trumpistes et tout. On a un niveau de conscientisation et de préparation professionnelle qui est très important. Donc, personne ne fait cette erreur. Il y en a encore qui prennent de haut le Rassemblement National en mode c'est une bande de guignols, les mecs n'ont jamais été sérieux. Ce qui est vrai, quand ils ont toujours exercé. Les rares fois où l'extrême droite a exercé le pouvoir au niveau local, ça a toujours été n'importe quoi. Hein. C'est vrai. Impréparation, bordel absolu, ils truquaient les comptes, etc. Oui, ça a été le cas. Mais c'est plus le cas maintenant. Donc, mais effectivement, je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce qu'ils espèrent, les mecs? Toute la petite génération là, qui allait rejoindre Zemmour, est-ce qu'ils croyaient vraiment qu'il allait devenir président de la République, qu'ils allaient se retrouver en cabinet? Je sais pas.
Parce que, non, ce qui a d'ailleurs été dit dans le chat, c'est qu'on a souvent dit que le RN et le FN à l'époque n'avaient pas très envie d'être au pouvoir. Eux, ils étaient hyper contents de vivre comme un parti d'opposition, en tout cas faire du bruit, grimper, faire vivre leur idéologie et leur parti. Enfin, tu vois, j'ai l'impression que c'était effectivement ça. Et je pense que Marine, elle incarne assez ça. Je ne suis pas sûre qu'elle, elle ait envie.
Non.
Je suis pas sûre qu'elle ait envie d'être présidente. Je pense pas qu'elle ait ce truc aussi fort. En revanche, je pense que des mecs comme Bardella, eux, ils se préparent. Déjà, il est tout jeune, mais eux, ils ont vraiment ça en tête. Et du coup, je pense que ça va, en changeant de génération, effectivement, ça va changer la dynamique. Et oui, c'est flippant.
Il y a quelqu'un qui demandait qu'est-ce que je pense de Bardella. Pour moi, Bardella symbolise ce que je suis en train de vous expliquer. La jeune génération qui se câble dans l'exercice du pouvoir, c'est-à-dire c'est la fin de la dédiabolisation de Marine Le Pen, qui est capable de présenter des jeunes en costume cravate bien peignés, qui ont des tronches de premier de la classe et de genre idéal, qui viennent tenir des propos d'extrême droite certes, mais sous couvert d'un glacis qui rend le truc acceptable sur un plateau télé. Alors tu me diras, les plateaux télé ont assoupli énormément leurs critères d'admissibilité des propos, mais du coup ils se fondent dans ce moule-là. Et Jordan Bardella, au moment des élections européennes, moi je me souviens que le mec, il arrivait en débat, il était hallucinant. On était en plein pendant la crise des migrants en 2015, les Syriens, vous vous souvenez, et tout, machin. Tous les candidats aux élections autour du plateau parlaient de la question migratoire. Et au moment où la parole allait à Jordan Bardella, il répondait « Non, mais moi, je pense que la question de l'immigration, c'est pas forcément central en Europe, d'autant que l'Europe n'a pas beaucoup de compétences, et nous, on veut qu'elle en ait pas beaucoup. Moi, je pense qu'il faut d'abord parler de l'intelligence artificielle et du numérique. » Toi, tu regardes ta télé, tu fais « Oh, putain !» Le mec vient de mettre un sujet moderne au milieu du plateau, alors que tous les autres sont en train de s'enchaîner sur un sujet qui est censé être son sujet de prédilection. T'es en mode « Oh merde ». Et c'était ça. C'était voilà. Venez, on parle d'IA. Venez, on parle de la Chine qui, pour moi, est l'avenir de machin. Et t'es en mode « Ouf ». Bah voilà. Et Bardella, c'est ça. Il est câblé, il est carré, il est fort.
Il a des propos clairs, concis. Ah ouais. Enfin, c'est même juste en termes de rhétorique. Ouais. Et je vous parle évidemment pas du fond, parce que le problème, c'est que là, dans ces cas-là, la forme sert le fond trop. Mais c'est vrai que c'est terrible comme il est.
Oui. Donc, et on peut pas en dire autant de tous les partis, y compris des partis de la gauche.
Oui, ça reste le fascisme derrière.
Dieu sait que j'aime bien les copains d'Europe Écologie Les Verts que je salue. Mais j'ai quand même pas mal de témoignages qui me disent qu'en interne, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est la génération climat, c'est des jeunes très sympas et très mobilisés sur les questions climatiques. Mais il n'y en a pas un qui est foutu d'écrire un communiqué de presse ou un amendement.
Courage les copains.
Ça va, c'est vrai. Donc voilà. Hey, il est moins 10. Mm. Est-ce que c'est pas le moment où on se fait des bisous, les amis? Merci Adèle.
Merci à toi.
C'était cool ce stream un peu improvisé, hein, la discussion, tout ça.
Ouais, j'étais ravie.
Ouais, c'était trop cool.
J'espère que vous étiez contents. Il y a des noms qui sortent. Non, c'est pas ça, c'est pas pour nous.
Si, ils disent.
Ah, ça s'arrête.
Oh non. Et si ça s'arrête?
Ah, damn it.
Nous avons des obligations, mais nous reviendrons.
Mais ouais.
On verra.
C'est chou. Merci, merci de m'avoir accueilli.
Merci à
le
toi.
Le chat aussi, c'était vraiment trop trop bien.
Merci le chat, c'était trop cool.
Et il est sublime, le nouvel appart.
Il est chouette, hein.
Parce que on l'a demandé un peu plus tôt, mais.
Il va être encore mieux grâce à toi. Quand je l'aurai décoré comme il se doit. On va faire un raid. Est-ce qu'on fait un raid? Est-ce qu'il y a quelqu'un à raid? Est-ce qu'il y a des copains en ligne là à l'heure qu'il est? Moi donc je vous le redis les amis, je suis en vacances hein, les prochains jours, je me barre, je me casse, je veux plus entendre parler de politique, de quoi que ce soit, sinon je vais mourir de dépression, donc voilà.
Je vous fais des bisous parce que je remercie tout ce que vous dites de Choupi dans le chat.
Ouais, merci les copains. Il y a Stupideco, ouais c'est Marino. Vas-y, Marino qui fait un stream sur Stupid Economics, tu connais Stupideco? Chaîne YouTube de vulgarisation éco. Voilà. Allez, on se fait un petit slash raid. Stupide écho, des bisous à Marino de ma part.
Oui, c'est son conseiller qui lui a dit maintenant t'arrêtes, t'es insupportable avec le reste des équipes, Jean. Il faut prendre des vacances, tu disparais pendant 4 jours.
Tu rigoles, mais on en reparlera, mais j'ai besoin de quelqu'un comme ça dans ma vie. Et c'est pas une blague, même pas une blague.
Challenge accepted.
Arrête de lancer des projets tous les jours, Jean, prends soin de toi. Allez, je vous fais des bisous, les amis, merci, c'était trop cool. Ciao tout le monde, bye bye.